Justement, il y a des fois, on veut créer une filtre, mais le conseil municipal dispose d'un lieu ouvert accessible au public. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Ainsi commence cette séance au cours de laquelle je vais nommer comme secrétaire Mme Barbara Louillot. Je réussis magnifiquement son travail cette fois. Nous avons des procurations. Oui, mais.
À propos du secrétariat, ça serait sympathique si vous donniez l'instruction à la secrétaire de transmettre les questions qui lui sont posées ainsi que les réponses. Afin que ça ne soit pas que par voie de presse que les gens savent votre position sur telle ou telle chose. Voilà, ça serait sympathique.
Attendez, que par voie de presse. Non, là, vous avez très bien compris, mais comme un autre, que c'est une disposition statutaire. Oui. On dit que c'est elle, mais c'est pas elle, bien entendu. On désigne la Benjamin ou le Benjamin de l'Assemblée. En fait, c'est sur le service administratif qui rédige le procès-verbal, madame.
Mais j'ai bien compris, mais je vous dis que peut-être vous pourriez me donner des comptes rendus plus étoffés, en donnant des directives aux gens qui rédigent ces comptes rendus de conseil municipal.
À votre demande, de toute façon, nous joignons systématiquement les pièces que vous souhaitez voir joindre au compte rendu. Il suffit que vous le disiez. Après, vous voulez que mes comptes rendus soient plus étoffés? C'est un compte. Si vous voulez, la transmission en service préfectoraux, c'est une transmission très administrative, avec des termes qui n'ont rien de romantique, mais plutôt d'administratif. Et voilà. Citez-moi un exemple, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous voulez que le débat soit davantage étoffé.
Voilà, je pose
la retranscription l'intégralité des débats.
Voilà. Je poserai des questions et je pense que les concitoyennes seront heureux d'avoir votre avis et les réponses. Sinon, c'est parfois la presse qui est sans téléco. Et voilà, donc je pense que ça serait mieux que les citoyens puissent avoir accès.
De l'intérieur et pas de l'extérieur, d'accord.
Voilà, merci.
Très bien. Donc je donne la liste des pouvoirs. Monsieur Craver, il y a un problème d'entrée, d'accessibilité.
Prenez la roulette.
Bien. Monsieur Cravert, donc, dans la procuration, Madame Julie. Monsieur Foucaran à Monsieur Cassard. Madame Salaver à Madame Campagne. Madame Foucompré à Patricia Moulin-Trafort. Et Monsieur Laurent Tricoire à Madame Danique Laurent. Voilà. Donc, on n'a pas eu de remarques par écrit. Madame Mayen arrive dès que les bouchons vont sauter. C'est un problème technique. Voilà, donc je vous propose d'adopter le procès verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques, à l'exception de celle que Madame Gombalos vient de faire en séance relative à, disons, une retranscription plus détaillée de. Des débats en conseil municipal, bon, nous essaierons de voir ce qu'il est possible de faire dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Monsieur Pradey.
Monsieur, je vous avais demandé lors du dernier conseil municipal de bien préciser au PV que nous demandions le compte rendu moral et financier de l'association des forêts de Carnon. J'ai eu une époque de mail avec une pièce jointe que je n'ai pas pu ouvrir. Et par contre, dans la version papier, j'ai rien vu. Bon. Donc si on pouvait avoir le compte rendu moral et financier de cette association-là par papier.
C'est ce que vous aimeriez, oui.
C'est ce que je n'ai jamais reçu en papier. Je ne sais pas si elle est causée, mais j'ai pas reçu, mais je l'ai rendu.
Bon, ce qu'on va faire, on va vous en faire une extraction papier, on va vous donner tout à l'heure, ou demain, tout à l'heure, c'est ça. On vous le fait passer par vous envoyer par mail. Oui, c'est quand vous envoyez par mail, voilà. Je ne sais pas, je vais connaître. Voilà, et donc je. Anthony, si vous n'avez pas de soucis. On vous l'a envoyé, si le principe, oui, mais le résultat n'est pas athée. D'accord. Alors, oui, quand vous ne recevez pas les pièces, faites-le remonter à l'administration, au directeur général des services. On verra avec notre service informatique comment on peut résoudre tout ça. Voilà. Et puis exceptionnellement, vous a fait remarquer que le compte rendu l'ordre du jour du conseil municipal n'était pas sur le site internet. Bon, c'était un oubli de notre part, je n'aime pas la responsabilité. Habituellement on le met, mais il n'y avait aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Voilà. Voilà, donc, avant d'introduire ce conseil, je souhaiterais faire une petite intervention sur des sujets d'actualité. Le premier est relatif aux concessions de plages. Vous savez que le domaine public maritime est amélioré par l'État aux communes, avec un traité de concession sur une période de 12 ans, et que la commune, par le biais d'une délégation de services publics, signe un traité de sous-concession pour 5 ans. Que cette année nous avons renouvelé 6 amodiateurs. On avait les grandes paillotes avec 1200 m², 4, et 2 petites, moins de 600 m². Donc sachez que 20% du domaine public maritime peuvent être amodillés et que le choix de la commune est d'en amodiller que 4%. Sur 10 paillotes, on en a amodillé 6. Donc tout ça s'inscrit dans une politique de renaturation du lido. Avec une volonté qu'il n'y ait pas de présence outrancière de concession et une volonté de laisser la configuration en plage d'espace naturel, malheureusement des fois fragilisé par les intempéries, un milieu fragile qui n'avait pas, à notre sens, une pression démesurée par une prolifération de concessions comme ça peut se faire sur d'autres communes. Donc je rappelle qu'à l'issue de l'enquête publique, il avait été décidé de rassembler l'offre de restauration des différents lots et que le lot de la plage des Lézards avait été déplacé avec un avis favorable du commissaire enquêteur devant le complexe hôtelier de balnéothérapie des frères Coste. Cette nouvelle disposition permettant de plus une mise en œuvre opérationnelle optimisée du poste de secours pour une question de surveillance. Voilà, donc ça c'est le principe pour lequel je me suis engagé avec ma municipalité, de préserver les espaces naturels, tout en soutenant l'économie saisonnière des concessions de plages, qui permettent, comme vous le savez, à nos producteurs locaux de valoriser, de vendre leurs produits à une clientèle qui dépasse souvent celle du cadre régional. Dans le même temps, soucieuse de maintenir, de soutenir une économie touristique pérenne, notre municipalité, à la demande des responsables du futur hôtel, va mettre à disposition de cette activité, moyennant loyer bien sûr, des places de parking, pour permettre un fonctionnement satisfaisant. Alors, à ce moment-là, bien sûr, il y a des personnes qui nous ont critiqués, puisqu'ils ont dit qu'on aliénait le domaine public au profit d'intérêts privés, alors qu'en fait, on essayait de garantir des retombées économiques pour le commerce local. Donc, vient ensuite le temps de la consultation pour l'attribution de la concession de plage qui attribue le loyer à un candidat autre que les frères Coste. Voilà qui bat en brèche la théorie d'une collusion, d'une entente, à défaut d'une collusion avec nos futurs hôteliers. Je vous fais grâce au passage de quelques articles polémiques qui ont été stylés insidieusement. Dans certains articles, j'en étais souvent la personne visée. Bon, je dis que parmi ces personnes, il y en a un qui pourrait avoir, s'il avait été à Cannes hier, je lui aurais décerné la palme d'or de la médiocrité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc aujourd'hui, le but de l'intervention, c'est de vous informer sur la situation juridique de cette affaire. Donc, la commission de services publics, à l'unanimité, n'est-ce pas, Mme Comarnos, a attribué le lot 1 au mieux-disant, qui était Mme Zornero pour 110 000 euros. Monsieur le préfet, qui a souligné la régularité de la procédure reconnue par la commune, n'a pas attribué la concession au candidat désigné en raison d'un vice de forme. Madame Zornero n'avait pas déclaré avoir été condamnée pour une infraction de dépassement de voirie dans l'occupation du domaine public, alors que le renouvellement de sa concession pour une année supplémentaire n'avait pas posé de question, n'avait pas posé de problème. Donc, monsieur le préfet vient de répondre négativement à la demande de reconvocation de Mme Zornero, sans pour autant obliger la commune à attribuer la concession au profit du candidat évincé, puisque la candidature de Mme Zornero était recevable et qu'elle représentait la meilleure offre pour la commune. Ce n'est pas le code des marchés habituel qui oblige, avec carence du premier, à désigner le second, et ainsi de suite. Donc, Mme Zornero dispose aujourd'hui de 2 mois, à dater de la notification du refus par la préfecture, pour faire appel devant la justice, si elle le décide. Donc, passé ce délai, à ce moment-là, la commune prendra la décision qu'elle jugera la plus opportune, et je viendrai devant vous faire la proposition du groupe majoritaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas lieu. Je ne suis pas en capacité, en tant que maire, quelle que soit la décision qui sera prise, pour sécuriser la procédure qui a été malmenée une première fois. Donc, voilà. Donc, concrètement, pour le moment, la commune n'encaisse rien, puisque cette concession est... Et oui, effectivement. Vous avez vu tout le mal qu'on s'est donné, Mme Comarnos, pour cette concession. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes en stand-by. Nous attendons la fin des délais. D'ici là, nous verrons ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et ensuite, nous reviendrons au conseil municipal pour prendre de toute façon une décision pour l'attribution de cette concession. Voilà. Donc, je voulais que le point soit fait et que tout le monde bénéficie du même niveau d'information. Monsieur Bourguet.
Tout d'abord, bon, vous avez fait une allusion à l'histoire des parkings pour l'hôtel Coste.
Je l'ai dit. Oui.
Voilà. Donc, quand on voit les réactions des frères Coste aujourd'hui, on se dit que finalement. Voilà, j'avais sûrement raison de ne pas être d'accord avec cette alignation du domaine public. D'autant qu'à l'époque, quand le permis a été donné, il était donné à condition qu'il y ait un parking. Ce parking n'était pas le nôtre quand le permis a été attribué. Donc je maintiens qu'il y a eu des procédures pas normales dans cette affaire. Voilà. Donc pour en revenir aux plages, il y a aussi un problème, je crois, au Grand Travers, il y a un recours. Alors, d'après ce que j'ai lu à la presse, hein, après, si c'est pas vrai, vous me le dites. On m'a dit qu'il y avait un recours, non ? Et on m'a dit que les deux plages voulaient fusionner en une seule. Donc je voulais savoir si vous étiez au courant, si c'était vrai, parce que vous avez attribué les deux plages aux mêmes personnes. Et voilà.
Après avoir interrogé les services de l'État, qui nous ont confirmé que chaque lot était un lot, et qu'effectivement, dans quelque chose qui n'est jamais arrivé, mais qui pourrait arriver, vous mettez 6 lots en compétition, la même personne, la même société, sauf si c'est une petite personne et que la personne doit répondre personnellement, physiquement, étant la mandataire du lot, elle pourrait avoir des 6 lots. Aussi étrange que cela puisse apparaître. Voilà. Donc, on ne maîtrise pas, nous percevons les redevances des autres lots, mais il y a eu des contacts par certains attributaires évincés qui nous ont fait part de leur mécontentement, ce à quoi nous avons répondu que la procédure n'était pas sur une question de cote de popularité ou de cote d'amour, entre guillemets, et que même si j'ai beaucoup de sympathie pour certains anciens attributaires, pour autant, je ne veux pas déroger au principe du code des marchés et dire comme ils ont bien travaillé, on les reconduit. Pas plus que lorsque nous avons disposé de certaines. Quand nous avons mis en place certaines dispositions pour l'occupation du domaine public pour les frères Coste, c'est pas parce que je suis copain avec les frères Coste, moi j'ai pas à être copain ni pas copain.
Ils ont dit que c'était copain.
Non, j'ai dit que nous avons mis en place une procédure qui permettait d'encourager une installation commerciale au bénéfice de Carnon comme de Palavas et de l'économie régionale, et que cette disposition rapportait un loyer à la commune qui, au bout de 5 ans ou 6 ans, remboursait l'investissement et représentait une source de revenus au service d'une activité économique, comme le seul niveau des concessions. Ce que j'ai dit simplement, c'est que quand on a deux candidats, qu'on aide le candidat A avec des dispositions qui semblent qu'on fasse de la préférence, on est critiqué. Quand on montre que finalement, non, c'est pas ça que c'est le candidat B, on reproche de pas soutenir l'économie. Mais c'est pas vous qui l'avez dit, c'est pas non plus M. Lenny qui est présent ce soir. C'est d'autres personnes qui l'ont dit, je n'ai pas apprécié. Je le dis parce qu'à un moment donné, ça va. Voilà. Mais vous avez le droit d'avoir un avis différent, M. Bourguet. Vous l'avez par le passé, vous m'avez montré, d'accord. Mais je sais qu'aussi, vous êtes capable de réflexion et les arguments que je développe, croyez-en sans cesse. Voilà. Je vous remercie. Le deuxième élément que je voulais commenter, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, y avaient participé, c'est le Parlement des enfants. Le jeudi 19 mai, 200 enfants étaient présents à Bassagé, à l'initiative donc du député, de notre député de circonscription, M. Vignal. Un exercice d'éducation à la citoyenneté sur le fonctionnement des institutions, manière de voter une loi, dans la continuité des actions prônées par notre plan éducatif municipal, et avec le concours des enseignants et de nombreux parents que je remercie, nous avons pu accueillir nos collègues de Candiard et de Lansargues pour cette éducation à la démocratie. Et j'annonce que le 16 juin, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, devrait être présente avec des 1000 enfants de la circonscription même de Montpellier, puisque certains sont de Montpellier, aux arènes de Montbiot pour, disons, le point d'orgue de cette démarche, pour laquelle je remercie tous les participants avec une mention spéciale à Madame Sophie Crampagne, même si ça doit lui faire monter un peu le rose au joues, et le service scolaire de la mairie. Je peux dire que, sous l'autorité de notre directeur général des services, les services, notamment chargé de mission de l'éducation, M. Darmougel, je peux dire son nom, pourquoi pas, se sont vraiment très investis, et je vous remercie, puisque c'est la commune que vous représentiez, ce n'était pas vous, Sophie, je te remercie d'avoir bien participé, ça a été salué, j'espère que ces députés en herbe, bon, ma foi, sauront ensuite prendre les valeurs de la démocratie et la défendre. Et le troisième point, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est simplement l'annonciateur de la fête de la nature avec les 4 et 5 juin. Nous avions pris, lors du DOB, M. Pradel, vous en souvenez, M. Perpoletti aussi, des engagements relatifs aux valeurs de proximité, de cadre de vie, d'environnement. Et donc, nous avons, en dehors d'une campagne d'affichage qui a été faite sous le zéro phyto, que d'autres associations ont également relayé, cette sensibilisation, aujourd'hui, nous la mettons en musique, si je puis dire, auprès de nos administrés par un moment qui se déroulera sur 2 jours, le samedi 4 juin et le dimanche 7, essentiellement le samedi 4 à la plaine des sports. Le 4, ça sera animé par la commune, vous aurez bientôt les dépliants, avec la participation des écologistes de Lozière qui, eux, du samedi soir au dimanche soir, animeront, si vous voulez, l'observatoire faunistique et floristique de notre milieu. Ils sauront dire les préconisations qui en découlent pour le préserver. Tout cela se fera sous forme d'atelier avec donc un programme qui vous sera communiqué et où la période de sport sera ce jour-là dédiée à cette transition qu'elle représente géographiquement entre la vie urbaine et la nature elle-même. Voilà. Donc des dates à retenir et auxquelles je vous invite de participer en fonction de votre disponibilité et de votre motivation. Voilà. Monsieur Capelletti.
Bonsoir. Donc juste 2 remarques sur vos propos. Bon, le premier liminaire, c'est j'aimerais avoir votre analyse de l'augmentation des impôts de l'agglomération, hein, dont j'ai entendu parler, parce que ça rejoint un peu les discussions qu'on a eues, c'est-à-dire que ici des efforts ont été faits et j'ai contribué, je les ai soulignés pour ne pas les augmenter. Et si, effectivement, d'un côté, on prend ce qu'on a réussi à économiser de l'autre, on n'est pas gagnant. Donc, j'aurais aimé avoir votre analyse sur ce qui s'est passé. Sur les plages, j'avais l'occasion de dire que, de toute évidence, la commission d'appel d'offres était en pleine régularité, mais que, compte tenu des investissements faits par COST, ils ne pouvaient pas accepter que sur les les chambres donnant sur la plage qui vont atteindre 300 à 500 euros, les personnes se retrouvent avec une concession qui n'était pas la leur. Et donc j'avais appelé à une négociation entre les parties prenantes. Je ne sais pas si vous avez les moyens de la faire, je ne sais pas si l'aglo peut jouer un rôle là-dessus, mais en tout cas... C'est une demi-surprise que le préfet trouvait un... Mais le préfet, il a trouvé, comme par hasard, un vice de forme qui n'existait pas avant. Je pense qu'on a besoin de partenariats publics-privés. Tout le monde sait ici qu'à Carmont, on a besoin de rénover l'offre de tourisme en gardant un tourisme familial, mais aussi d'augmenter vers un tourisme familial à plus fort pouvoir d'achat. Et le projet COST y contribuait tout à fait. J'avais une deuxième information sur les difficultés qu'aurait le Pampa Beach à honorer le fait qu'il était classé premier et à ouvrir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
Je peux vous répondre, oui. Alors, dans l'ordre par rapport aux impôts qui ont été votés à l'agglomération. Donc, lors du vote du budget, au mois de décembre, un budget qui avait été voté en équilibre, bien sûr, comme tout budget qui se respecte, notre commune, que je représentais avec tous les élus, en tout cas dans le groupe majoritaire, nous avons exigé que, de manière apparente, les efforts consentis par l'agglomération soit visible, comme ici, en disant, voilà, on se fixe comme objectif, c'est 500 000 euros de moins de fonctionnement, on travaille sur le temps de travail, on travaille sur les investissements, il y avait plusieurs leviers. Le vice-président délégué m'a répondu qu'effectivement, ces choses avaient été faites, on avait demandé qu'elles soient visibles. Bien, lors du vote des taux, de la réunion sur le vote des taux, nous avons donc voté le budget. Et ensuite, à partir du moment où ce budget était en équilibre, notre posture a été de dire à quoi bon une année qui précède, une année où nous allons avoir, nous n'avons pas encore connaissance des fonds de l'État. Vous savez qu'en ce moment, l'État se demande s'il va continuer à baisser les dotations envers les communes ou s'il va un petit peu adoucir cette décroissance de subventions dont nous étions en attente. Nous avions aussi quelques incertitudes à ce moment-là sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, où vraisemblablement c'est une somme de 40 euros qui sera demandée à chaque foyer fiscal pour financer ces dispositions, ce que nous ne savions pas. J'avais suggéré au nom du groupe majoritaire de... Bonsoir, monsieur. Nous avions suggéré au nom du groupe majoritaire de sursoir à cette augmentation qui était plus, selon ce qu'on avait dit le vice-président chargé du budget, une précaution en cas de mauvaise surprise. Vous souhaitez obtenir 1 million d'euros d'avance de trésorerie pour permettre de mieux assurer le budget de 2007. Voilà. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas voté cette disposition contre laquelle nous étions. Je l'avais dit en bureau. Les réponses qui ont été apportées, si elles avaient été au titre d'un financement d'une zone économique ou d'un objectif dont l'urgence nous a mené à augmenter les impôts, en sachant qu'on risque d'avoir à le faire l'an prochain, m'a mené fort de l'expérience de ce que l'année dernière j'avais demandé, puisque le président souhaitait et envisager l'année dernière d'augmenter les impôts de l'intercommunalité, taxe additionnelle, et j'étais personnellement intervenu pour qu'il sursoie cette augmentation, pour que la commune, elle, les communes puissent, elles, avoir un petit peu de marge de manœuvre, ce que nous avons fait en augmentant les impôts de 5% l'année dernière, compte tenu qu'on les a augmentés de 9%. Il m'était difficile cette année de voter contre un principe, mais nous n'avons pas approuvé cette augmentation que nous avons jugée prématurée et finalement inopportune. J'espère que l'avenir nous donnera raison. Et je sais que l'agglomération fait comme la commune, elle fait des efforts pour, disons, chercher des niches et voir comment elle peut économiser. Mais vous me demandez ma position là-dessus. Ben, le vote l'a révélé. Il n'y a pas eu d'unanimité là-dessus. Alors, j'observe qu'en l'occurrence, les votes qui ont été faits par les uns et par les autres n'ont répondu à aucune logique. Mais la nôtre était de dire, essayons d'éviter la pression fiscale, essayons de trouver les marges au sein du fonctionnement de notre intercommunalité. Je peux vous dire qu'on simple, hein. Je ne suis pas entendu que ça n'est pas fait, mais moi je trouvais cette augmentation prématurée. Voilà, donc je l'ai justifié. Bon, nous verrons cette année comment les choses se passent, et nous verrons quelles sont les dotations de l'État, mais nous avons des incertitudes qui peuvent nous amener dans le futur à, disons, augmenter cette pression en fonction de ce que fera l'État. Mais partons du principe que si nous sommes nous-mêmes vertueux dans nos collectivités, peut-être la part de l'État sera moins importante qu'elle ne l'est. Je ne veux pas m'abriter derrière cet inconnu qui est la dotation. Il semblerait que si on n'a pas de subvention, on ne peut rien faire. Mais disons, on cherche des marges de manœuvre, on réduit notre train de vie, on réduit nos investissements, on veille à ce que les heures supplémentaires soient vraiment justifiées. On essaie de rationaliser et de mutualiser. Voilà. Mutualiser, c'est aussi le sens que les collectivités vers lesquelles on doit tendre. Je pense qu'au colloque qui se déroulera pour les petites villes moyennes et la grande monte dans deux jours, il sera question également de cette mutualisation pour mettre, disons, à disposition des synergies qui permettront, j'espère, d'économiser. Ensuite, par rapport aux concessions, alors, je ne vais pas dire malheureusement, parce qu'il semblerait que je me serais précipité pour le faire. Le code des marchés ne permet pas de négociation en dehors d'une attribution. Il y a, dans la phase d'attribution, un moment de négociation avec les pétitionnaires. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils répondent, le moment où on connaît leurs offres, et le moment où on leur demande de revoir leur offre par rapport à des réponses qui n'ont pas été apportées, ils ont la possibilité, d'un point de vue pécuniaire et financier, de revoir la proposition qu'ils ont faite. Cette proposition aurait pu être revue par les candidats du lot 1, comme elle a été revue par d'autres candidats sur d'autres lots. Ça n'a pas été le cas de l'attributaire putative et du candidat évincé, donc de Mme Zanero à M. Coste. Mme Zanero a proposé 110, M. Coste 90, ils sont restés sur cette position. Bien entendu, la déontologie interdit de prévenir quelque concurrent que ce soit de cette disposition de négociation. C'était les textes qui étaient écrits, qui les prévoyaient. Donc ça, on ne peut pas. On ne peut pas discuter une fois que c'est attribué. Les enjeux sont tellement importants. Pour ce qui est de Pampa Beach, nous avons reçu, notre directeur général des services a reçu les responsables pour justement leur demander de déposer le permis de construire, chose qu'ils ont faite l'autre lundi. Et à ce jour, ils ont fait part au départ de certaines incertitudes. On leur a dit, écoutez, vous êtes attributaire, maintenant. Au départ, c'est le service public qui préside à cette disposition. Même si ça rapporte un peu d'argent à la commune, vous avez aussi un service à rendre. Il y a eux aussi. Et là, bon, ils ont trouvé que c'était un petit peu tard. Ils ont fait part de quelques interrogations, mais nous leur avons demandé de s'installer. Alors, je ne sais pas. Oui. Le prochain conseil sera en mesure de vous informer. Et le prochain conseil, ce sera dans un mois, ce sera déjà le début de la saison. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de décision qui nous dise que Pampa Beach ne s'installera pas. Ils payeront leur redevance, ça c'est sûr. Par rapport à leur installation, je puis vous dire qu'ils ont déposé le permis de construire. M. Mascelli est venu l'autre semaine, au titre du groupe, il était accompagné, je pense. Donc, ils ont dit qu'ils déposeraient. Ils l'ont déposé d'ailleurs, le permis de construire. Est-ce qu'il est inscrit, M. Cassard, Bernard ? Il est en cours d'instruction, voilà.
La remarque que ça m'inspire, c'est que donc, la commission de l'appel d'offres de Moulou-Carnon a parfaitement joué son rôle. À mon avis, il n'y a aucun. Comme vous l'avez souligné, réglementairement, tout a été bien fait. Et que d'une façon générale, ces commissions ont leur tête dessus en raison d'outils qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces commissions, alors peut-être que ça pourrait déboucher sur, je sais pas, un rapport de votre part, etc., sur le fait qu'elle elle a notamment un moyen d'audit qui lui manque. C'est-à-dire pour s'assurer, par exemple, que les propositions qui sont faites, en l'occurrence Pampa Beach, avaient vraiment les moyens d'ouvrir en temps et en heure, ou bien que Madame Zanero ne souffrait pas de... Vous voyez, Donc c'est une remarque plus générale, c'est-à-dire que j'ai l'impression, compte tenu des enjeux de plus en plus importants en jeu, que les commissions d'appel d'offres municipales manquent d'un outil, et donc on ne peut pas vous le reprocher. Mais comme par ailleurs, on va reprocher cette commission, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, d'un pouvoir d'investigation à un moment donné un peu plus approfondi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a deux plages qui sont en retard d'ouverture, et finalement, c'est à la fois le privé et le public qui en pâtit.
Tout à fait. Je précise quand même qu'était présent à la commission d'appel d'offres notre lanceur communautaire dont la profession, le métier n'est pas de vérifier certaines pièces, mais en fait de vérifier quand même la légalité et la transparence de la conduite des opérations. Et il y avait une personne qui était déléguée par la répression des fraudes, donc qui était un agent de l'État et qui était quelque part.
Ce que je veux dire, c'est que les commissions vont chez les attributeurs. Parce que vous le savez bien, dans le privé, c'est de plus en plus. Hein, quand on passe des contrats, à un moment donné, le client va faire un audit chez le fournisseur pour s'assurer qu'il a les moyens de produire.
En règle générale, si vous voulez, les pièces et du clause de charge, le cahier des charges de la clause particulière, disposent justement de cette capacité du pétitionnaire à répondre avec l'urgence qui est nécessaire, comme quand vous avez un marché. Où on vérifie, il y a le prix est le premier critère tout autant que les autres critères sont satisfaits et que la société est jugée capable et viable en offre technique avec un cuisinier, avec un financier, avec un porteur de projet, ainsi de suite. La qualité de l'analyse reposait là-dessus. Et c'est la première fois que nous sommes confrontés à cette difficulté. Je puis vous dire que les autres années, moi je ne suis pas un professionnel de la politique, ce n'est que la deuxième fois que je lance cette sous-concession, on n'avait pas eu, de problème du tout. Et là, ce n'est pas parce qu'on a été nonchalant. Les conditions dans lesquelles le loan avait été reconduit par la préfecture, s'il y avait une vice de forme ou quelque chose, à ce moment-là, peut-être aurait-il fallu qu'on nous le dise. Ou voilà. On ne peut pas là-dessus. La préfecture nous a bien dit que le travail avait été bien fait, mais que compte tenu, vous le savez, aujourd'hui tous les marchés sont attaquables. Tous les marchés.
Un patrimoine administratif, etc.
Tous les marchés. Donc, on ne peut que regretter, effectivement, le résultat qui se garde aujourd'hui, celui que deux grandes concessions n'aient pas été en service, d'autant que, comme je le dis, même si nous essayons de ne pas accentuer la pression artificielle de l'homme. Sur la plage, on ne peut pas non plus se réjouir que les attributions aient été faites et qu'il n'y ait personne sur les plages, quand même. On ne peut pas s'en réjouir.
Caricaturant, on pourrait dire que certains auraient vendu quelque chose qu'ils n'avaient pas la capacité de produire.
Voilà. Ouais. Alors, si on peut s'interroger, les attributaires du lot palavasien, pour autant, l'ont pas ouvert l'année dernière.
C'est une problématique qui dépasse.
La commission d'appel d'offres. C'est compliqué. Puis bon, mon rôle, moi, c'est d'être factuel et pas d'entrer dans le commentaire ni dans la polémique. Parce que c'est pas le rôle d'un maire ni d'un conseiller municipal. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soutienne l'économie. L'économie, qu'elle se fasse pas au détriment des milieux naturels. Mais on a choisi qu'il y en aurait peu, mais que celle qui nous avons choisi. Eh bien, soit opérationnel, c'est tout ce que je souhaite. Voilà, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, après cet échange, nous allons passer à l'examen des points du jour. Conformément à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités, vous avez connaissance, en page 1, 2, 3, 4, 5 et 6, eh bien les procédures adaptées, on examine les procédures adaptées et les événements qui ont été souscrits avec un petit peu de tout. Dans les décisions, nous avons souvent des contentieux d'urbanisme, nous en avons beaucoup. On en a beaucoup parce que nous sommes vigilants et que nous essayons d'être toujours dans la prévention, d'éviter de faire démolir. On essaie surtout d'éviter aux gens des sorties de commencer des choses qui sont interdites. Voilà. Ensuite, Il y a un jugement pour une personne qui s'était fait mal, une autre personne pour une procédure administrative. Ensuite, vous avez les contrats de spectacle. Vous avez ensuite les régies de recherche pour l'encaissement des droits de parking, des siennes de justice. À nouveau, les contrats de spectacle. Et puis ensuite, les amenants, les procédures adaptées, comprises entre 25 000 et 90 000 euros. Là, vous avez tout.
S'il vous plaît.
Oui,
madame. Si vous pourriez nous donner un complément d'information au sujet de la fourniture et l'installation de caisses automatiques des parkings à Carnot.
Oui.
C'est bien pour les deux parkings.
Oui.
Et je voulais savoir, les travaux ont commencé, mais le problème s'est passé samedi dernier, il faisait très beau. Le parking à Carnot-Ouest était inaccessible parce que les travaux étaient en cours et on a eu des problèmes d'engorgement dans tout le quartier parce que les gens rentraient dans cette impasse, que ce soit le Carnot-Ouest, n'arrivaient pas à sortir parce qu'ils cherchaient que quelqu'un sorte. Et donc il est dommage qu'on n'ait pas eu une possibilité d'utiliser le parking par une autre entrée. Et je me demande, heureusement qu'hier il faisait mauvais, mais si le week-end prochain on ne peut pas utiliser le parking, s'il y a besoin des pompiers ou autre, parce qu'il y a un noyau ou autre, on va avoir de gros problèmes. Donc si il fait beau le week-end prochain, il faut absolument que la police municipale soit là. Parce que sinon on risque problème. Parce que les travaux.
Nous avons eu, Madame Comrano, nous avons eu la même surprise et réaction que vous, puisque l'entreprise devait, les opérateurs devaient laisser le parking accessible. Et qu'ils ne l'ont pas laissé accessible, pour une raison technique que j'ignore, dorénavant, le parking sera accessible le week-end, pour que justement les conditions de sécurité auxquelles nous sommes tous très attachés puissent être respectées, et puis aussi que pour le confort et l'accueil des gens qui veulent aller à la plage, en espérant qu'il fera beau quand même, puissent y accéder. Oui, oui. Le petit travers est accessible, il n'y a pas de problème.
Ah oui, hein. Mais bon, moi je vous parle, justement, je ne pouvais pas sortir de chez moi parce que les deux sens de circulation étaient bloqués, parce que les gens s'étaient empilés. Oui, mais bon, les kilomètres parcourus et puis j'ai des problèmes de genoux. Les petits vieux, c'est ça, oui.
Le petit travers était accessible, mais le lundi de Pâques, les toilettes étaient fermées et ça a causé beaucoup de problèmes. Les gens faisaient la queue, les robinets, il n'y avait pas l'eau non plus. Les gens lavaient les pieds des enfants avec de l'eau minérale. Donc je ne sais pas à quelle date ça ouvre, hein. Je parle du lundi de Pâques, c'est pas très violent. Et il y avait un monde énorme et tout était fermé. Je voulais savoir un peu d'informations sur le point numéro 1 là.
Oui.
C'est un emploi municipal ou tout ça?
Le
28. Oui.
Oui. C'est un employé municipal. Il y a une contestation sur l'incapacité de travail qui a été jugé prise en compte par la commune par rapport à la situation de cet agent. Voilà, c'est-à-dire la commune n'a pas reconnu l'accident de travail pour des faits qui sont produits il y a un an et demi. Bon, il y a une contestation entre M. Milan et la commune, donc ça va être jugé. Voilà. Ça c'est rare, mais ça arrive. Voilà, donc aujourd'hui, point numéro 2, j'informe l'Assemblée de l'installation de l'eau. Alors, souvenez-vous, il y avait M. Dominique Sanchez, ce n'est pas la première fois que nous l'accueillons, nous l'avions accueilli à Carnot l'autre fois, mais il y avait eu, suite à la démission de M. Serge Romano, donc il y avait eu, dans le, ce que vous avez remarqué, dans les dispositions administratives, une disposition qui faisait que pour l'élection au niveau des commissions, en fait, c'est une désignation, vous allez prendre, M. Sanchez, les délégations auxquelles était présent M. Romano, c'est-à-dire cadre de vie et travaux, tourisme, handicap et Carnot, sécurité et ressources humaines. Voilà. Donc, vous êtes aujourd'hui, je demande au conseil de prendre acte de votre désignation dans les commissions municipales que je viens d'évoquer, qui n'appellent pas de vote. C'est un arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 2013. Voilà. Donc, par le passé, je salue la perspicacité de M. Poiret et de M. Courant, mais par les du Conseil d'État. On est tranquille. Pour les plages, la prochaine fois, je vous appelle.
N'hésitez pas. Voilà. Et il y a tout à gérer à la maison de police.
Point numéro 3. Alors, il s'agit de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Vous savez que il y a un décret qui est paru le 25 mars 2016 qui nous invite à une simplification, une clarification, une modernisation de la commande publique. Alors, pour simplifier, il va falloir remonter. Voilà, donc, par délibération en date du 14 avril 2014, outre le maire et le président de droit, le conseil municipal a élu à son sein 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour la commission d'appel d'offres. Bon, aujourd'hui, pour sécuriser la validité juridique de ces procédures à venir, on nous demande de renouveler cette instance. Alors, il y a deux possibilités. Soit je présente au nom du groupe majoritaire 5 noms, 5 titulaires, 5 suppléants, et les divers groupes vous proposer, si vous en avez envie, vos candidats. Soit on peut opérer comme autrefois, s'il y a un accord entre les différents groupes de l'opposition, on peut gagner du temps, mais le but n'est pas forcément celui-là, hein, c'est comme vous voudrez. C'est-à-dire, le groupe majoritaire propose 4 noms de titulaires et 4 noms de suppléants, et vous proposez un titulaire et un suppléant qui représentera les groupes d'opposition, compte tenu que c'est une élection qui se fait à la proportionnelle. Voilà. On peut mettre, même si j'ai une commission, comme vous voulez, si vous voulez 2 minutes pour en discuter, je vous en 2 minutes.
Précisément, et on dit dans le quorum de la commission.
Oui.
Non, rien, c'est 4 et
1. On garde les mêmes.
Oui. Voilà. Donc, je vous propose les 4 membres titulaires du groupe majoritaire, M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Favier. M. Claverie, donc, je ne le présente pas. Et c'est Mme Rabinovici qui sera présente, enfin, si vous êtes d'accord. Et les 6 membres suppléants, Mme Aiglem, M. Balzamo, Mme Sanchez-Bresson, Mme Gély. Et Mme Rabinovici, vous aurez comme suppléante Mme Grèce. Voilà. Si vous êtes d'accord. Il n'est pas M. Capelletti. Il est là, la position. Et non, il n'est pas. C'est pas écrit.
Non, mais ça, c'est trop.
D'accord, c'est mon bulletin. Donc, M. Capelletti, vous êtes le suppléant de Mme Rabinovici. C'est une affaire de I. Et M. Sanchez, le suppléant de M. Albert. Voilà.
Lequel
de tous les André.
Oui.
Oui, André. Bon, si vous êtes d'accord, on y va comme ça.
Non, on n'est pas d'accord.
Monsieur Santapo, vous n'êtes pas d'accord.
Oui, on nous a présenté un candidat.
Oui. Bon.
Juste une remarque. Moi, je suis d'autant plus favorable, en fait, à garder que il est important que les membres des commissions des suppléants soient présents. Donc, je dis ça pour Monsieur Santapo qui vraiment absent. Non, mais si, c'est M. Santapo qui se présente. C'est M. Santapo qui se présente. Enfin, je commente ma décision.
D'accord.
Mais effectivement, je lui sens tout amitié pour M. Santapo. Ben,
effectivement, moi, ce que je peux dire, c'est que j'apprécie.
Surtout appel d'offres. Hein, moi, voilà. On a parlé, bon, c'est pas le folklore, quoi.
J'apprécie la présence de tous les candidats titulaires, tous les élus titulaires, aux commissions d'appel d'offres pour la transparence du débat public. Hein? J'étais bien content, J'étais satisfait que Mme Commando soit présente les 2 fois. Voilà, c'est bien. Elle a fait son boulot, elle a représenté, et Mme Rabinovici est toujours présente. Je tiens à le dire aussi. Bon, on va distribuer les bulletins. Et M. Santapo n'est pas d'accord.
Sur quoi ?
Et M. Santapo refuse bien ?
Non, je vais faire ça comme pour présenter un candidat.
Oui. Oui. Voilà. Donc, il faut voter.
Oui. Donc, monsieur.
Monsieur Santapo, c'est pas d'accord.
Lequel ?
Lequel ?
Allez. Donc.
On peut voter à
main levée si vous voulez.
Non, on peut refaire.
Voyons de dire. Thank you.
Chacun a préparé son bulletin. Alors, pour annoncer la liste, donc, je recommence. Liste du groupe majoritaire, M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Favier, M. Favry, suppléant, Mme Aiglem, M. Balsamo, M. André Sanchez, Mme Gély, Mme Crampagne. Liste numéro 2, conduite par
Madame
Radinovici. Allez-y. Suppléant. Monsieur Capelletti. Liste numéro 3. Titulaire. Monsieur Sanchez. Suppléant. Madame Muller. Bien. Allez, je vous invite à voter. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Tout le monde est d'accord? Oui. Mais on donne le vote. Allez, je fais monter. Liste présentée par le groupe majoritaire. Qui est pour?
Oui.
Qui vote deux fois, levez la main deux fois. Oui. Levez les mains. Oui. Monsieur Le Tour.
Oui.
Liste, Madame Ravinovici, levez la main. Merci. Liste, Monsieur Sanchez. Merci. Alors,
on fait les calculs.
On fait les calculs. Allez, se lever. Liste vote majoritaire. Liste majoritaire, 24 voix, 3 sièges attribués, liste 2, Madame Rabinovici, 6 voix, 1 siège attribué, liste 3, M. Sanchez, 3 voix, 3 sièges. Répartition du reste, liste 1, 4 sièges, majoritaire, liste 2, un siège, liste 3, pas de siège. Donc, sont élus M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Favier, comme remplaçant Mme suppléant, Mme Aiglem, M. Balsamo, M. Sanchez, Mme Gély, Mme Rabinovici, titulaire, M. Capelletti, suppléant, et c'est fini. Voilà. Voilà, donc ça, alors, on va maintenant passer au point numéro 4. Le point numéro 4 est également relatif à la désignation d'un jury pour la réhabilitation de l'îlot Prévert. Je vous rappelle que l'îlot Prévert répond à cet engagement de proximité que j'avais rappelé tout à l'heure. Que la première étape a été celle d'une mise en place d'un service dédié aux associations, M. Albert comme élu référent, et que la deuxième étape est le projet d'une maison des associations qui occupera une grande partie de l'île au Prévert pour poursuivre cet engagement qui a fait lors de sa présentation unanimité sur le principe, toute sensibilité et tendance confondues. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'élire le jury qui va désigner la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc nous sommes dans une phase importante, une phase administrative, qui permettra ensuite de désigner l'opérateur sur cette réhabilitation. Alors, je vous propose de procéder comme tout à l'heure, puisque c'est un jury avec 7 personnes qui correspondent bien sûr au code des marchés publics. Le maire étant président de l'État, membre de droit, merci. Voilà. Donc, le président peut également désigner des personnalités dont il estime que la participation présente l'intérêt particulier avant l'objet du concours, sans que l'homme de ces personnalités puisse excéder 5. Ces membres en voie délibérative. Un tiers du jury doit avoir une qualification de maîtrise d'œuvre ou équivalente, et le comptable public et le représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer sur l'invitation du président du jury. Ils ont une voix consultative. Voilà, donc, ce jury ne sera pas formé que des 5 personnes qui vont être aujourd'hui désignées, élues. Elles seront complétées également par des professionnels, comme c'est le cas, et comme il convient de le faire avec un centre d'experts, puisque les élus ne sont pas forcément experts, mais ils portent, pardon, la responsabilité de la procédure. Alors, je vous propose de faire comme tout à l'heure. Nous proposons, le groupe majoritaire propose une liste, qui est la même que celle que nous avions proposée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour que nous voyons si nous procédons comme nous l'avons fait précédemment ou pas?
Monsieur Bourguet? Oui. D'abord, je voudrais poser une question sur vraiment le rôle de ce jury exactement. Et puis, je voudrais savoir, pour ce projet de maison des associations, oui. Est-ce que vous envisagez, moi j'aurais souhaité, c'est une discussion, que les associations de mon lieu puissent être invitées en amont des appels à projets, en amont du concours d'architectes, à savoir exactement quels sont les besoins éventuellement cernés, comment les associations voient cet endroit, comment ils l'envisagent, mais cette chose-là soit faite en amont, pas une fois que les architectes ont travaillé, les urbanistes.
Vous pensez bien que le recensement des besoins des associations est un travail qui a déjà été fait, nous les avons reçus. Nous les avons consultés, nous leur avons dit voilà ce que nous vous proposons, et ça n'est pas comme un particulier qui va choisir sa salle de bain, sa robinetterie ou ses papiers peints. On ne peut pas tailler sur mesure une configuration propre d'une association. Ce travail a été fait en amont. Là, simplement, on va faire passer le cahier des charges qui recense toutes les attentes, qui va désigner un architecte avec une maîtrise d'œuvre. Et il y a des professionnels, justement, de la chose, en l'occurrence, n'imaginez pas que ce recensement n'est pas fait et que le projet tourne le dos aux évidences et aux attentes des associations, bien sûr. Donc, le service des associations, déjà, qui est en place, a recensé, après un an de fonctionnement, les besoins, il y a des améliorations qui ont été apportées, puis il y a d'autres attentes. Les gens, ils le savent. Parler avec eux, ils le savent. Bien sûr, on a peut-être 300 ou 400 associations sur la commune, on n'a pas les vis-à-vis des 400, mais les principales associations ont fait part, elles, de leur désirage. Enfin, là, c'est complet quand même comme équipe. Hein. Donc, je repose ma question. Est-ce que le groupe qui a eu un élu est d'accord pour repartir à l'aventure? Est-ce que le groupe de M. Sanchez représente le même type de candidat que M. Santapo? Madame Muller, vous présentez. Très bien.
Nous aussi, on ne présente pas le même candidat.
Vous ne présentez pas le même candidat. Bon, alors moi, je vais vous présenter mes candidats et vous allez me dire vous qui vous présentez. Et on fera comme tout à l'heure si vous êtes d'accord. Moi, je vous propose. Oui. C'est vrai, voilà. Oui. Donc je vous propose M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Favier, M. Claverie, membre titulaire, membre suppléant, Mme Aiglen, M. Balsamon, M. André Sanchez, Mme Gély, Mme Crampagne. Voilà. qui présente une liste?
Monsieur Bourguet. Monsieur Bourguet, titulaire. Monsieur Laurent Pradet, suppléant.
Monsieur Laurent Pradet, suppléant.
Bon,
ça,
c'est
Madame Muller, titulaire. Monsieur Sanchez, suppléant. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Oui. Alors, pour la liste, membre majoritaire, qui est pour? Même si elle met la main, elle est de main. Si vous avez une procuration, 24, vous comptez bon. Liste, monsieur Bourguet, monsieur Pradel. 1, 2, 3, 4. 5. Monsieur, madame Muller, 4. 3. Ici, M. Sassier, M. Capelletti,
M. Lebrun.
Moi, si on se concerte avec moi, je me dis.
D'accord. Eh ben.
Il faut refaire le vote.
On peut refaire le premier vote. On
ne
peut pas refaire le vote d'avant.
Alors,
on ne peut pas refaire le vote d'avant.
Alors, il y a des modifications qui sont aussi. Attends, que l'on me fasse ça. On recommence? Non, commencez pas. Il y a une abstention. 5 voix pour. Et 3. Ça va changer le plus fort reste.
Je ne sais pas qui est l'autre, ça va pas faire.
C'est la preuve que je compte. Donc, il faut s'occuper de moi.
D'un côté, la foire. Bien.
C'est pareil, il faut que je proclame le résultat.
Ah, tu vois que tu comptes ça.
Donc c'était juste un avertissement.
Donc il y a des nouvelles, cette fameuse commission qui était l'étudiante, pour venir réformer l'administration de la maison. Ça s'est réuni une ou deux fois, sur les propositions.
Demandez à votre
avis. Je demande au conseil.
Allez, on y va.
je suis au courant, on en a parlé il y a 5 minutes.
Voilà. Donc, liste 1, 24 voix, 3 sièges, groupe majoritaire. Liste 2, 5 voix, 1 siège. Liste 3, il n'y a pas de, siège. Donc, ce qui redéploie les pourcentages avec liste 1 qui obtient 4 sièges et la liste 2, 1 siège. La liste 3 n'a pas de siège. C'est-à-dire que sont élus M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Favier, Mme Aiglem, M. Brézamont, M. André Sanchez, Mme Gély, pour le moment, je le terre. M. Bourguet, M. Capelletti.
Non.
M. Bourguet, M. Pradeil. Voilà. Sont élus. Voilà. Et ensuite, M. Bien sûr, tu peux rien. Voilà. Allez. Ensuite, point numéro 5, nomination du directeur de la régie du port de Carnon. Alors, on a là le point 5, le point 6, le point 7. Ce sont des points qui concernent la vie carnonaise. Donc, celui-ci, le premier d'une série de 3, des sujets qui s'inscrivent en complémentarité au service de l'économie locale et qui, bien sûr, servent largement l'image de notre commune. Puisque récemment, en termes d'image, j'ai le plaisir de rappeler que le port de Carnon a obtenu le renouvellement du pavillon bleu, qui consacre bien sûr la qualité de nos eaux, mais aussi la qualité de l'accueil, puisqu'il y a le pavillon du port et le pavillon de la ville, et que toute la station bénéficie de cette distinction, qui a été remise à M. Balzamont, conseiller du port, par Mme Delga, présidente de la région, il y a moins d'une semaine. Après que le matin, Didier Codornu, au Parlement de la mer, ait conduit la délégation de tous les maires et délégués de l'Union des villes plaisances de Lyon-Roussillon sur le site du Lido, dont on a pu mesurer la qualité du travail, mais aussi la fragilité, mais qui a été cité comme exemplaire par M. Codornu, qui est le président en charge du Parlement de la mer. Voilà. Donc, par rapport à la régie du port de Carnon, je rappelle que nous avions, au mois de décembre 2014, pour satisfaire à la mise en place d'une régie dotée de la seule autonomie financière au port, on avait nommé Mme Nourine Bank, le 22 décembre 2014, pour mettre en place ce nouveau fonctionnement. Un fonctionnement qui a été parfaitement réalisé, puisque après avoir pleinement satisfait à cette mise en place, Mme Bank propose de démissionner de ses fonctions. Et je propose, j'accède à cette demande, puisque le travail qui a été demandé a été réalisé, et je remercie en me tournant vers elle, elle est là, je lui tourne par le dos, Madame Bank, pour son investissement et la mise en place de ce nouveau fonctionnement, dont Madame Lévy Lévy, maître de port, chef de service, va prendre la suite. Comme elle avait auparavant ce rôle en partie. Voilà, donc je précise que le directeur du port assure le fonctionnement des services de la régie. Voilà, donc le directeur prépare, sous l'autorité du maire bien sûr, prépare les budgets, procède aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts R2221-68 du Code général des collectivités territoriales. Il nomme et révoque les employés privés de droit privé de la régie et il peut recevoir une délégation du maire pour une délégation de signature en fonction des montants. Et le directeur est nommé par le maire après avoir été désigné par le conseiller municipal sur proposition du maire. Donc ça se fait en plusieurs étapes. J'invite le conseiller municipal à désigner comme directeur de la régie dotée de la seule autonomie financière du port de Plaisance de Carnon, Mme Patricia Mendy-Lévy, avec laquelle, bien sûr, Mme Abel continuera à travailler, puisque c'est elle qui a ouvert la voie. Madame Comornos, vous avez la parole, puisque vous avez demandé.
Monsieur le maire, il eût été plus sympathique et plus élégant que la proposition soit faite soit en parlant du directeur de port et en mettant tous les qualificatifs, il, et après on nomme madame, ou alors on parle de madame et on lui donne des attributions, mais à ce moment-là, on dit elle. Voilà. C'est quand même plus délicat et plus sympathique et moins misogyne.
Je vais vous dire, madame Combanos, j'ai pas voulu rentrer dans une forme de commentaire qui m'aurait amené à qualifier madame Vendinelli, non pas maître de port, mais maîtresse de port. Bon, on aurait cherché qui était. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, je suis victime de ma délicatesse. Mais en fait, je relève votre pointillisme. À la prochaine, je ne vous le pourrai pas.
Monsieur le maire, il faut vous y faire parce que l'université, on est maîtresse de conférence. Et professeur avec un E.
Ah oui, professeur, auteur.
Maîtresse de conférence.
Maîtresse de conférence. Oui, oui. Maîtresse de conf. Ne pas oublier le final. Hein. Voilà. Très bien. Écoutez, après ces amabilités, donc, je propose de désigner madame Vendinelli.
On ne m'entend pas.
C'était une désignation. Voilà. Ensuite, donc, qui est pour ? Aucune désignation. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Contre.
Si. Ensuite, monsieur,
je vais faire un petit commentaire. Donc, c'est une bonne décision. Ça faisait partie d'un certain Carnonnet s'interrogeait sur le cumul des postes, même si dans une banque remplissait très bien sa fonction. Donc, je pense que ça va contribuer aussi à. Effectivement, à enlever certains fantasmes sur Carnot. J'en profite pour vous rappeler deux interrogations qu'on a Carnonnet, dont j'avais déjà fait par ici, qui est le rapport sur l'équité fiscale entre Carnonnet et Neuf-Dorient. On continue à. C'est l'objet de d'interrogations et de crispations. Et puis au niveau de l'agglomération, donc l'étude du fameux bus à 1 euro, qualitative et financière, pour démontrer que ça a un intérêt ou pas. Voilà.
Bon, monsieur Capetti, vous avez raison de nous rafraîchir la mémoire. Je m'y étais engagé. Le rapport est fait, il ne vous a pas été envoyé. Mais en commission, je me suis engagé en commission, on fera une diffusion plus large au groupe du conseil municipal par rapport, disons, aux investissements et aux recettes, coûts et dépenses sur. Bonjour, car même si cette dualité n'est pas fondamentale, mais enfin, au moins que ça fixe les idées des uns et des autres, et que vous parlez de fantasmes, certains, ça les satisfera, ou au contraire, ça remettra les idées en place. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'île des mamelles de l'identité était le port, et bien l'autre qui est non moins importante, animée par Laurence Julie et bien celle de l'Office de tourisme. Je vais donner la parole à Laurence et vous demander d'approuver les comptes de l'Office de tourisme, dont je salue le dynamisme et le fait que la loi NOTRe semble aujourd'hui pouvoir épargner cette perte de gouvernance qui était initialement imaginée dans l'animation de l'Office de tourisme dès lors qu'ils étaient labellisés. Et donc, la directrice, Madame Boucher, qui est présente avec notre comptable ce soir, ont bien anticipé, en travaillant avec la commune, à labelliser justement notre port, à le rendre compétitif, attractif, moderne, pour que justement on puisse échapper à une inclusion dans un système qui ne fera pas la part belle à ceux qui ne sont pas classés en catégorie comme ceux de Palavas et de Monte-Carlo. Madame Julie, Laurence, tu as la parole.
Merci. Alors, de façon générale, le budget prévisionnel a été respecté. Les seules anomalies que l'on observe sont quelques rares lignes qui correspondent à des changements d'affectation de lignes demandées par le Trésor public. Au niveau du compte administratif 2015, l'Office a consommé 506 842 euros en dépenses de fonctionnement et encaissé 513 269 euros de recettes de fonctionnement, ce qui, en ajoutant l'excédent 2014, de 32 254 euros, un bien excédent de fonctionnement pour 2015 de 38 000 €, 38 680. Au niveau de la section d'investissement, elle est elle aussi excédentaire, à hauteur quant à elle de 17 315 €, en raison notamment d'un montant très faible d'investissement cette année de seulement 1 759 €, déduit les 16 182 € de recettes d'investissement de l'exercice et les 2 880 € d'excédent d'investissement antérieur. Au niveau du budget primitif de la section d'exploitation, il est de 542 680 €, et celui de la section d'investissement de 29 324 € pour un budget total de l'Office du tourisme de 572 000 €. Il y a deux points que je voulais préciser. C'est tout d'abord la capacité d'investissement de l'Office qui incite le comité directeur à proposer d'investir dans des outils de communication au public, notamment sur des animations en saison et hors saison. Le format des outils reste à déterminer. Et un deuxième point que je voulais ajouter, qui concerne le travail qui est entrepris sur la place de séjour, par méconnaissance bien souvent des propriétaires de locations saisonnières omettent de déclarer leur location saisonnière. Donc il y a un premier travail d'information qui est entrepris et qui sera suivi par des contrôles. Il faut approuver, il faut voter. Je n'assiste pas au débat.
Est-ce que vous avez des...
Oui, donc globalement, je n'ai pas grand-chose à dire, vu que je salue le travail de Mme Boucher qui est présente ici, mais je vais m'abstenir parce que pour la simple raison qu'on ne participe pas à l'élaboration ni du budget, ni des travaux d'Office du tourisme, c'est ainsi, et c'est dommage. Voilà, c'était juste pour justifier mon vote.
Très bien. Cela dit, si vous avez des idées, vous pouvez le faire part, parce que du siège de l'Office, c'est votre... Donc, ça va. Monsieur Tornet.
Alors, si on fait le parallèle avec le budget municipal, il n'y a aucune raison qu'on soit en embête Mme Lorraine toute l'année sur l'efficience des investissements, et qu'on voit juste la ligne là et qu'on dise bon, il faut un peu plus investir. Vous comprenez bien que ce n'est pas par rapport à aux conseils municipaux que nous sommes, le fait de ne pas avoir le détail des politiques et de ne pas pouvoir y travailler sérieusement, ça ne nous permet pas de formuler une prise de position intéressante. Donc moi je pense qu'à l'avenir, je rejoins Daniel dessus, vous n'avez aucun risque à avoir un ou deux membres de l'opposition dans le tour de table, parce que vous avez une majorité de travail qui est quand même assurée, et à moins que pensez que vous n'avez pas besoin de la majorité de l'opposition pour avoir un débat sur cette enveloppe-là. Oui.
Moi, je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, en comité directeur, il n'y a pas de membre de l'opposition, mais il y a une commission tourisme et handicap à laquelle est associée Mme Combarnousse et M. Sanchez. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne rentre pas dans une commission, c'est pas une commission de décision, on nous informe de ce qui a été décidé.
Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, Mme Combarnousse, celle de son échelle, n'aurait jamais la majorité dans les commissions. Le but de ce que disait M. Pradel, c'était de vous associer, M. Bourguet, c'était de vous associer le plus près possible de ce qui se discutait. Le problème, c'est que comment inviter une personne? Il y a deux groupes, bon, trois, je ne sais pas, quatre. Comment en inviter un sans ne pas vexer les autres? Quand je dis vexer, le but, c'est pas de vexer, pas vexer. Le but, c'est d'être républicain. Soit il y a des commissions qui fonctionnent de manière officielle et les personnes sont représentées, soit éventuellement, comme l'a dit Madame fort adroitement et intelligemment Madame Julie, vous êtes dans une commission qui peut regrouper les mêmes thèmes, vous y êtes, je veux dire, vous n'êtes pas écarté. L'autre jour, on vous a invité, vous nous avez fait part de votre exposé sur la création d'un bar régional, comme nous, on ne vous méprise pas. Quand vous avez des idées, on vous écoute. Mais, je vous regarde, je suis sérieux. Voilà. Après, ce que j'aime pas, c'est quand on dit une chose ici, qu'on dit le contraire dehors. Mais ça, c'est autre chose. Mais moi, je respecte votre position.
Juste une petite question à marge, parce qu'on a parlé de tourisme et handicap. Il y a une pétition qui circule d'un handicapé de Montpellier qui demande l'accès, qui est au moins un accès aux plages sur tapis hors saison. Alors, je ne sais pas si à Carnot c'est le cas ou non.
Oui.
Oui. Oui.
J'ai vu circuler cette pétition sur Facebook. Ouais. Il faut quand même rappeler qu'on a fait un gros travail d'investissement sur l'accessibilité de la rive droite, du phare rouge, qui nous a été demandé par un professionnel, puisque c'est le président de France Dystonie, Alliance France Dystonie. Donc, il y a un travail qui est fait en partenariat avec un Carnonais qui est très très concerné et qui nous a demandé de mettre en priorité l'accessibilité à cette digue. Après, le problème, je ne vais pas répondre pour Jacques Travers, mais on a un problème de support à l'année qui s'entretient, qui est plus difficile, la mer qui monte. Voilà, mais en tout cas, la priorité qui nous a été demandée par les professionnels, c'était vraiment l'accès au phare rouge, et ça a été fait, et on a été largement remercié d'ailleurs par la personne concernée.
Si on peut le faire de manière opérée, et nous sommes dans une conquête justement de l'accès libre à tous et le plus longtemps possible, on peut le voir aussi.
Je pense qu'il faut l'étudier quand même.
Alors oui, et je voudrais rajouter aussi, excusez-moi d'être trop barbare sur ce point-là, mais on a reçu la première revue de l'APF, donc c'est une revue, un journal qu'on a reçu, et Mobio est cité quasiment, Mobio Carnon a quasiment toutes les pages. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Et ce fameux accès au phare rouge a été, bien entendu, mis en valeur comme beaucoup d'accessibilité. Donc on n'est vraiment pas à la traîne en termes d'accessibilité, même si, forcément, il y a toujours...
Non, moi, je ne disais pas qu'on est à la traîne. Je disais juste qu'il y avait cette demande hors saison, parce que de par là, à la grande motte, il n'y a rien. Voilà, ça pourrait être nous les moteurs de cette affaire.
On travaille à l'accessibilité de l'avant pour rester dans le monde.
Voilà, d'accord.
On peut éventuellement l'intégrer.
Et ensuite, je reviens juste sur les histoires des sanitaires. On a une station qui reçoit beaucoup de monde tous les dimanches de l'année. Je ne sais pas si ce n'est pas possible d'avoir un peu plus de points d'eau ouverts hors saison, au moins le dimanche et les jours fériés, quoi.
Pour en revenir à l'accessibilité, j'avais demandé quel était le plan de l'accessibilité des arrêts de bus, parce que les gens peuvent venir en tram, mais après, je veux dire qu'ils peuvent prendre le bus, mais ils ne peuvent pas descendre du bus à Carnon. Donc, j'aimerais bien que, je veux dire, il y ait un véritable plan d'investissement pour les arrêts de bus et que, je veux dire, on puisse venir.
Ça fait partie des choses à travailler en commission à laquelle Mme Comarnier est également.
Je croyais que les arrêts de bus étaient en charge des municipalités. Si je me souviens bien, à l'Aglo, ils ont dit, je veux dire, y compris Aérotransport, qu'ils avaient réalisé des bus qui reçoivent les handicapés, mais étaient à la charge des municipalités sur leurs trottoirs de rendre les trottoirs suffisamment hauts, accessibles. Et on avait, toutes les communes de l'Hérault ont été informées d'avoir à mettre en place un plan d'accessibilité. Bien sûr, on ne peut pas tout faire en même temps, mais il y a des points particuliers. Et j'avais demandé déjà l'année dernière quel était le plan. Mais je n'ai pas eu de réponse et j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus.
Mais déjà, le circuit de la ligne qui amène au tram, on le connaît depuis très peu de temps. Puisqu'il est mis en place depuis le début avril et on le connaît depuis peu de temps. Donc c'est vrai qu'il faut effectivement travailler sur la question des accessibilités de ce bus, quitte à ne pas faire les trois arrêts, mais en faire au moins la mairie annexe. Et après, quand je parlais de la voie, il y a aussi la question de l'équipement des bus, parce que les bus qui sont équipés pour ne pas avoir besoin d'un arrêt équipé. Donc c'est à voir si effectivement il faut faire une demande d'équipement ou nous travailler sur la question. De toute façon, il y a un travail à faire, je suis tout à fait d'accord, et ça nous est demandé. Je vais peut-être quitter la salle pour le vote, mais je voudrais remercier. Je remercie Agnès Boucher et Jimmy Murcia pour leur travail.
Nous associons ce remerciement, Madame la Présidente. Je vais essayer de l'écouter pas quand même. Voilà, donc je vous propose, donc je prends la présidence, donc je vous demande, mesdames et messieurs, d'approuver les comptes de M. Le Canon ainsi que Mme Gilles nous a présenté. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Merci. Il te dit que c'est sa cigarette et qu'elle peut revenir. On la fume pas. Voilà. C'était juste Madame Vélie, mais c'est passé. Voilà, maintenant le point 7. Le point 7 est relatif à la convention pour l'exploitation du restaurant La Pastorelle à Carnon. Alors, vous le savez, Messieurs Vigouroux et Olivier de la SARL Valistra nous ont informés de leur volonté d'être fait leur exploitation depuis quelques mois. Donc plusieurs candidats ont fait part de leur souhait de reprendre la gestion de cet établissement. On a eu deux candidats qui ont présenté des références qui étaient particulièrement intéressantes et qu'on a mis en concurrence. Et à l'issue de cette consultation, la candidature de M. Fernando Bianchi de la société Toscanello a été retenue, dont ce dernier répond aux attentes du cahier des charges initiales, et on me donnera le nom de la grande passerelle. Monsieur, je ne vous donnerai pas la parole, mais je vous demande de vous lever, Monsieur Bianchi, avec son associé, David. Voilà. Ce sont des personnes italiennes qui prennent la gestion du restaurant La Passerelle et qui vont ouvrir dès que possible dans les semaines qui viennent. Oui. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner la parole. Vous êtes dans une ville muée, monsieur Bianchi. Ça vous changera.
Ils peuvent parler avec
les mains. Bienvenue.
Ils peuvent parler avec les mains.
Voilà. Voilà, donc les conditions juridiques et techniques sont inchangées. En revanche, il a été révisé la part fixe qui est exigé par rapport aux ratios de redevances qui ont changé. Les redevances initiales étaient de 10%, donc sur ça donne une somme de 40 000 euros. Les ratios sont passés à 8%, pas parce que la commune les a décidés ainsi, mais parce que la profession les a fixés ainsi. Donc il sera demandé, je vous invite à demander 32 000 euros au nouveau attributaire, en sachant que nous conservons une part variable qui fait que si le chiffre d'affaires est entre 400 et 500 000 euros, 7% seront exigés et que 6% seront exigés de plus si le chiffre d'affaires est entre 500 et 600 000 euros. Voilà. Et 7%, ce chiffre d'affaires dans 600 000 euros, en sachant que le chiffre d'affaires initial avait été basé sur une somme de 400 000 euros. Voilà. Donc je demande aux membres présents d'approuver la convention. Il a été demandé à ces personnes à la fois de prôner l'identité de leur pays d'origine et à la fois d'intégrer la pêche locale et les produits régionaux, ce que la prochaine carte qui sera proposée, si le conseil municipal vote favorablement pour cette destination, montrera. Voilà. Monsieur Santapo, Madame Comaros, la galanterie, Monsieur Santapo, m'invite à laisser la parole à Madame Comaros.
Merci. J'ai regardé la convention de mise à disposition et je me suis aperçue que on ne précisait pas lorsque il risquait d'y avoir une évolution des normes légales, justement en accessibilité, sanitaire, foncier, etc., qui était en charge de mettre aux normes le bâtiment, le restaurant, et ça, c'est pas précisé dans le document, donc j'aimerais bien que ça soit précisé pour que les choses soient claires et qu'on se retrouve pas un moment à dire non, c'est la mairie, non, c'est le restaurant, et qu'on se brouille pas là-dessus.
Alors, Madame Comaros, votre préoccupation est légitime. Il y a un décret qui fixe les obligations des deux parties prenantes, du locataire et du propriétaire. Et bien entendu, il n'est pas question d'y déroger. Hein, voilà. Donc, c'est une évolution, eh bien, nous verrons ce que dit le cahier des charges. généralement, c'est le propriétaire pour les mises aux normes de ce qui concerne l'accessibilité, la sécurité, et ainsi de suite. Après, ce qui est relatif à la gastronomie, à mon avis, c'est le locataire. Monsieur Santapo.
Oui. La société Acarel Balistra est en liquidation judiciaire depuis le 25/01/2016. Est-ce que la commune a touché tous les loyers et dus?
Alors là, M. Santapo, malheureusement, nous sommes simplement ce qu'on appelle des créanciers chirographaires. C'est-à-dire qu'on passe après la première, la deuxième, la troisième lame. Nous ne sommes pas, si vous voulez, prioritaires dans le remboursement des frais que la société nous doit, compte tenu que l'endroit au niveau des salaires ont été payés, pour ce que j'en sais. Ce qui n'a pas été payé, ce sont les charges d'URSSAF, les charges qui étaient sur quelques fournisseurs également, et qu'effectivement, quelle que soit la hauteur de la proposition, qui n'est pas encore totalement définie, la commune n'aura pas le remboursement de la somme. Voilà. Je le crains fort. Je ne peux pas le dire de manière péremptoire, mais c'est quasiment certain puisque la somme des impayés est à mon avis, ça dépassait un nombre à six chiffres. Ils ont venant de loyer à la commune. Ouais. 40 000 euros. Voilà. Comment ?
Vous êtes allé l'année dernière ?
Oui. Alors qu'on paye les
pas tout à fait. Pas tout à fait. On a combien ? 40 000 ? Madame de Voyer ? On est à Madame de Voyer ? Monsieur Cabessi.
Voilà. En fait, effectivement, il apparaît que cette passerelle, c'est une restauration qui va être très difficile.
Ouais.
Donc, en moyenne, combien ont réalisé le chiffre d'affaires pour se faire une idée SRL Balistra et celle qu'il a précisée, c'est quel ordre? Est-ce qu'une analyse a été faite des raisons de leur naufrage? Et est-ce que les repreneurs, dont le dynamisme ne nous a pas échappé, ont eu un état des lieux de ces difficultés pour avoir les moyens de les surmonter? Parce que si tous les ans, on a le même débat sur cette passerelle, c'est peut-être que, je ne sais pas, mais par exemple, la convention était trop rude.
Alors exactement, vous avez donné une partie de la réponse à la question, ce qu'a fait l'équipe. C'est vrai que les 40 000 euros étaient jugés avec les frais d'ascenseur et certaines charges. Effectivement, elles ont été parfaitement assumées par le premier attributaire, M. Brun, qui est arrivé à tirer son épingle du jeu de manière satisfaisante les deux premières années. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu un creux avec les autres et on les a alertés plusieurs fois. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas satisfait à leurs obligations, mais que, en termes également de qualité de restauration, le rapport qualité-prix était peut-être excessif, peut-être, hein, et le chiffre d'affaires a baissé. Voilà, c'est pour ça qu'on a baissé un petit peu le loyer en s'appuyant sur les dispositions retenues par la profession. Alors, il est vrai aussi qu'il faut conquérir le soleil des carnets d'abord pour commencer. Parce que c'est vrai qu'avant de s'exporter, il faut d'abord être reconnu par ses pairs, ce qui n'a pas été le cas, par les précédents modiataires qui, eux, pourtant, avaient une buvette, le paillot, une concession de plage à l'Armemonte, et qui étaient des professionnels de la restauration. Voilà. Voilà, nous avons fait le choix de disons, M. Bianchi et de son associé, qui propose, j'allais dire, un esprit et une valeur de l'art latin qui manque peut-être à Carnot, c'est cette spécialité italienne qui va, j'espère, coloriser en tout cas la gastronomie locale. La commune de son côté a fait des efforts en termes de parking. C'est vrai que petit à petit le fléchage mérite d'être également soutenu, le cheminement pour accéder à cet endroit, le port également travaille à ce que les amodiataires puissent rallier, c'était fait initialement dans cet esprit, puissent apponter pour aller au restaurant ou en tout cas faire une dépose. là-dessus, il y a un travail qui est fait, le partenariat. Et ces personnes aussi, c'est bien qui sont associées, David, vont nous proposer vraisemblablement d'autres possibilités.
Depuis que la passerelle a été transformée en restaurant,
depuis le début.
Voilà. Les budgets engagés par la commune, c'est les vacances.
Le budget n'a pas changé. C'est-à-dire que nous avons imaginé mettre un restaurant pour, disons, profiter d'une requalification urbaine. On avait prévu d'y mettre une salle éventuellement. Il y aurait pu y avoir une salle d'exposition qui, elle, n'aurait pas eu vocation à faire des recettes. La salle des 6 ne génère aucune recette, par exemple. Donc le choix qui a été fait a été de dire, essayons de trouver l'équipement dont la commune aurait éventuellement besoin et qui soit de nature à promouvoir son image. Bon, c'était un pari un petit peu osé.
Mais le code de retour sur investissement, il est de combien dessus?
Il n'y a pas de retour sur investissement. C'est une pondération de charges qui a été vue comme étant ce versement de loyer de 40 000 euros est une pondération d'emploi. Ni plus ni moins. Voilà. Madame.
Je remarque toujours dans la convention mise à disposition qu'on parle d'un compteur individuel pour l'électricité, mais on ne parle pas de compteur individuel pour l'eau. Donc je voudrais savoir si l'eau, c'est la commune ou si c'est
la convention stipule bien sûr que le restaurant sera sien à l'acquittement de la facture d'eau.
C'est pas marqué là, hein, c'était marqué que l'électricité, donc je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte l'eau.
On vous donnera. Monsieur Bradley.
Oui. Je lis plusieurs candidats ont fait part de leur souhait pour reprendre la gestion de cet établissement. Leur candidature a été formalisée comment et elle a été accueillie dans quel cadre?
Tu le copies.
Qui est parrainée par le code des marchés.
Il n'y a pas de rapport. C'est une consultation de
seul. Et alors, on est. Quelle est la convention? C'est quoi? C'est une DSP?
Non. Il n'y a pas de service public. C'est une convention de mise à disposition.
C'est pas une DSP.
Qui est faite de gré à gré et sur ces sommes-là sans aucune forme de consultation.
Sans consultation formalisée.
Donc ce sont des consultations informelles.
Exactement. Et elles ne sont pas régies par le code des marchés publics.
Et est-ce qu'on pourrait avoir, sans vouloir trop déranger le côté informel, est-ce qu'on pourrait avoir votre vision des autres candidatures? Et un peu de transparence, je suis simplement en train de demander de la transparence sur une affectation de locaux municipaux. Hein, c'est la seule chose que je demande. Moi, je trouve, la fois dernière, j'avais trouvé que le fait que c'était une SARL, si vous voulez venir sur le mot, le fait qu'elle se maintienne dans les locaux et que ce soit à l'intérieur de la SARL que les actionnaires changent et que donc le gérant change. Je n'avais rien dit, c'était au sein de l'entreprise, mais je considérais quand même que c'était un changement de propriétaire un peu habillé. Là, vous me dites que c'est une consultation informelle. Je trouve qu'on aurait dû l'encadrer un peu plus. J'en parle parce que j'ai l'impression qu'on y perd beaucoup d'argent et que moi, je souhaite bien sûr aux deux propriétaires une longue vie pour leur entreprise et que ça marche pour 10 ans et qu'on n'en parle plus et qu'on... Je vous souhaite surtout de toucher le jackpot qui nous permettra entre 400 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ça me fera vraiment plaisir. Mais si, comme on s'est loupé deux fois déjà, ça serait peut-être bien qu'on y voit clair, qu'on dise où on en est, et peut-être qu'on arrête, si contrairement à ce que je veux dire, ça ne fonctionnait pas une troisième fois, qu'on arrête les frais. Parce que peut-être qu'un restaurant dans ce coin-là, pour le moment, il n'y a pas assez de challenge, c'est pas assez porteur, c'est possible aussi.
C'est quand je ne vais pas faire la promotion de notre restaurant, mais j'ai mangé il n'y a pas longtemps dans un restaurant de Carnot qui a servi 400 couverts à midi. 400. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une question d'attractivité, puisque ce lieu est un lieu atypique et que nous avons fait le pari, oui, nous avons fait le pari, justement, que c'est un endroit qui a été visité par de nombreux chefs. Ils disent que c'est quelque chose qui est formidable, certes, ils font la même chose, si ce n'est que jusqu'à présent, les occupants n'ont pas proposé une carte qui, c'est pas le lieu qui est pas bon. Les gens nous disent chaque fois, il y a le gérant du phare de Palavas, qui avait été au départ un candidat potentiel, qui s'est ensuite retiré. Il y a ensuite un monsieur qui a des paillotes, enfin, qui est chef et conseiller consultant pour les paillotes pour les Pourcelles, donc qui nous a dit, moi je veux bien, mais je ne reprendrai pas avant la fin de la saison, parce que j'ai pris des engagements, avec des investisseurs qui n'étaient pas des professionnels de la restauration. C'est pour ça, moi je veux bien, si vous me donnez un texte qui m'obligera, moi c'est pas monsieur Bianchi, il y a 3 mois, je ne le connaissais pas. Moi j'ai pas fait une désignation, nous avons avec monsieur Cassard et service, donc reçu, sélectionné ces 2 candidats pour justement voir les offres qu'ils faisaient, la carte qu'ils faisaient, les références qu'ils avaient. Si un texte qui le régit, moi je suis preneur, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, alors voilà, il n'y a pas de.
Est-ce qu'on pourrait connaître les références justement des repreneurs?
Oui, on en aura, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, monsieur Blanqui qui a un restaurant à Paris.
Un restaurant?
Voilà, oui. Il a une affaire à Paris. Et
ouais, moi, si vous voulez, la manière dont ça se passe. Vous ne pouvez pas dire, et je parle sous le contrôle de Zina Bourguet et de Dominique Talon, que ça fait plusieurs mandats qu'on vous dit que monter un restaurant là par la municipalité, c'est pas notre travail d'inventer les restaurants, c'est pas notre mission première, et en plus dans ce coin-là, les conseillers municipaux d'opposition vous ont toujours dit que ça sera un naufrage économique. Et là, on arrive quand même à avoir, si on a une année d'ardoise de loyer, on a quand même quelque chose d'assez appuyé. Vous avez répondu tout à l'heure à Laurent Capelletti que vous étiez en capacité de séparer, de faire un contrat analytique entre Carnon et le reste de la commune. Moi, je vous dis, dans les investissements que vous avez mis en termes de restauration, je sais, si vous êtes en capacité de séparer ce que vous avez fait pour l'infrastructure du pont, et les engagements que vous avez faits sur la restauration elle-même, je suis sûr qu'on est dans des pertes qui sont à la hauteur, on avait regardé ça, à la hauteur d'au moins 50 000 euros par an pour la commune. C'est pas, on a monté un restaurant qui nous fait manger 50 000 euros. 50 000 euros, je vois les responsables des festivités, les responsables de la culture et les responsables de l'éducation. C'est pas notre 50 000 euros par an. On mange 50 000 euros par an minimum. Donc par rapport à ça, si on fait le ratio, on ne se retrouve pas dans l'amortissement de nos investissements, ça j'en suis sûr. Et à la louche, moi je dis que c'est 4 000. Mais je serais ravi de me tromper et de voir une comptabilité qui me dise que je me suis planté. Mais là, on est un. Et en plus, moi j'ai eu des discussions avec Dominique Talon, vous avez dit la manière dont est monté le restaurant, ça ne permet pas à un professionnel de comment dire, d'aller au maximum de ce que pourrait donner la surface. Règle des histoires d'ascenseurs, de livraison, ainsi de suite. C'est normal, on ne sait pas monter des restos. Donc on a monté, on s'est planté. Bon, je vous le dis, je souhaite à nos heureux repreneurs qui fassent fortune et qui nous enrichissent par la même. Mais si jamais il y a un pépin, il faut peut-être envisager de mettre le frein à main, de réfléchir tous ensemble. Et pas sur une modalité de carte, parce que théorie, jusqu'à présent, sur je vais regarder votre carte et je vais vous embaucher, on n'a pas été très bon, et qu'on arrête les frais, qu'on fasse autre chose que ça. Parce que, quitte à perdre, moi ça m'amuserait qu'on plante une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, et des fournisseurs en cascade. Il est peut-être temps d'arrêter les frais. C'est. On a eu la même, je veux dire, Jean-Jean n'a pas fait mieux avec le phare, hein. Le phare dans la Méditerranée, il s'est planté 4 ou 5 fois dessus. Il n'a jamais réussi à trouver son rythme de croisière. Ce projet-là, bon, je pense que faire de la restauration là, on ne s'en sortira pas. Si dans 5-10 ans, on avait dans ce coin-là un port fluvial, une rénovation totale, là, moi, si vous me disiez, il y a un coup à faire pour la restauration, on a fait les portes de Carnon, là peut-être, mais jusqu'à présent, il est presque dans la zone technique, ce restaurant, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de chien en mise. Donc on est, moi je vous le dis, si, si on avait le même problème, il ne faut pas refaire comme ça du gré à gré. Et moi, sur la formule que vous avez choisie, vous me dites, bon, elle est informelle, ça me...
Non, elle n'est pas informelle, elle n'est pas régie, elle n'est pas encadrée par des méthodes formelles, comme tout à l'heure, quand nous avons élu, élu l'appel d'offres, ou élu le concours.
Oui, mais si vous voulez, la réponse que je vous fais, c'est, ça fait quand même 2-3 fois qu'on n'a pas la même là-dessus, et vous, moi j'aurais un fond de dossier pour savoir qui était les candidatures et comment quelle a été la logique de la majorité municipale. Je pourrais dire, bon, voilà, ça a l'air cohérent. Là, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de dire, c'est cohérent. C'est la troisième fois qu'on revient sur le dossier.
Cela dit, je n'ai pas le temps, mais qu'on ait perdu un peu d'argent, mais si on vous doit 40 000, on ne peut pas en perdre 50 quand même. Et je vous réponds aussi en vous disant que.
Monsieur le maire, sans minimiser les investissements qu'on a fait dans
ce moment, sans minimiser la perte de 40 000 euros. Ça représente un poste de travail chargé d'un cadre B à l'année. Ce que je veux dire, je relativise
ça fait là, ça.
En termes... Ça, non, je relativise. On a famille, M. Prodaille, au titre du dynamisme de l'économie, parce que nous avons estimé, il y a 3 ans, 4 ans, que cet endroit méritait une chance justement de requalification et de restauration, peut-être dans un certain temps, parce que les porteurs de projets, à part le premier, n'ont pas été, les seconds n'ont pas été bons. Je pense qu'aujourd'hui, on n'emploie pas de personnel municipal pour un service particulier qui n'a pas été recensé comme étant prioritaire. Nous tirons les conclusions. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu mérite d'être poursuivi, d'autant que vous le savez, il y a un projet de requalification de cet espace qui, en attendant, c'est vrai, souffre du fait qu'il y a une sorte de difficulté à le rallier et que la commune s'emploie, je l'ai dit tout à l'heure, à faciliter l'accès avec un fléchage ou un parking qu'on essaie de libérer en fonction de l'usage que le port a pour justement permettre son bon fonctionnement. Voilà. Monsieur Lapelle.
C'est pour cette raison qu'on s'interroge plus sur la viabilité de cette affaire, hein, sans être spécialiste. Voilà. C'est pour ça qu'à tout moment, en fait, une analyse, comme on est particulier de toute façon, une analyse sur c'est quoi les causes conjoncturelles, alors la carte, machin, et s'il y a des causes structurelles, nos repreneurs en sont informés pour leur donner toutes les chances de réussir ce qu'on souhaite. C'est pour ça que là-dessus, c'est comme le bus à 1 euro. C'est-à-dire que si d'un côté, on a une agglomération qui dit il faut augmenter les impôts parce qu'on n'a pas le choix, quand même le président de cette agglo soutient un programme avec 150 milliards d'euros de réduction d'impôts. Bon, mais je passe sur ce point-là. Mais si on n'a pas les chiffres sur le bus à 1 euro, vous voyez, ça crée des troubles, on s'interroge, voilà. Donc pour ce restaurant, je crois que mes collègues tous, la tour de l'opposition, je pense qu'on veut que ça réussisse. Et pour que ça réussisse, il faut quelques chiffres, une analyse, pour qu'ils partent sur les meilleures bases. Si dans un an, j'ai l'impression que si on voyait un film de l'an dernier, on avait exactement la même discussion, en fait, le même débat. Donc je pense qu'on est tous d'accord.
Bien.
Oui. Tiens, le chiffre que, quand je dis 50 000, je parle en plus de la perte qu'on a cette année. Je parle de déséquilibre. Vous avez, pour vraiment que le conseil municipal comprenne quelle est ma position, vous n'avez jamais publié quelle était la partie investissement restauration pure qui a été faite par la ville de Montbiot. Il y a l'investissement pont, qui était normal, il fallait refaire, et il y a l'investissement aménagement du restaurant lui-même. Cet investissement-là, qui avait une vocation privée de restauration économique, il faut l'équilibrer. Et ça, vous ne l'avez jamais publié. Nous, on l'évaluait et on pensait que sur un lissage à 15-20 ans, on était à 50 000 de pertes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rentrer juste la partie que vous voyez aujourd'hui à 32 000 qui est à 42 000. On aurait dû rentrer 80-100 000 par an. Et ça fait la perte dont je vous parle.
Et ça, c'est notre contribuable qui perd de l'argent pour avoir monté des murs, des ascenseurs de restauration. Bon, ça n'a pas de sens.
Monsieur Pradel, on a bien compris. Moi, je vous dis une chose, c'est que cette démarche s'inscrit dans un projet global de soutien à l'économie et à l'offre que nous avons jugé nécessaire pour Carnot. Nous verrons dans les temps qui viennent ce que demain dira, en sachant qu'il y a un repreneur qui n'a pas marché. Le premier bien marché et a gagné de l'argent. Je le précise. Le fait qu'on s'est remonté au calendrier grec, c'est heureusement, il y en a un qui n'a pas marché.
Il n'est jamais rentré dans la voilà. Pochette des...
tout à fait.
Du survol.
Le premier, il a dépassé les 750. Il a fait. Si, il a dépassé. Si.
Il n'a jamais rentré. Quelle année ?
Et
moi, vous faites une analyse de cet investissement, de mon investissement bon. Et de l'amortissement, et qu'on discute sur une base factuelle.
Les gens ne sont pas revenus de la première année.
Vous avez mal digéré. Bon, on vous donnera le chiffre d'exploitation. Il n'y a pas de souci.
Et les chiffres d'investissement de la mairie sur la partie séparée.
On vous le dira.
C'est pas du commun.
Bien, dernière intervention pour l'eau, Bernard, et puis on passe en route.
Oui, je voudrais signaler à Mme Covarnos qu'effectivement, l'eau est prévue dans la convention. À l'alinéa 4 de l'article 8, il est écrit « L'occupant déclare faire son affaire personnelle de tous impôts, taxes et charges afférents à son exploitation, notamment les fluides liés à l'exploitation. »
Bien, allez. Ceci est posé, merci pour cette précision. On passe au vote pour la convention d'exploitation qui désigne M. Bianchi comme bénéficiaire de cette convention. Merci. Pour. Contre. Abstention. Je vous remercie. Le point numéro 8 est le service d'accueil des animaux errants avec l'adhésion au groupement de commandes. Donc, Montpellier Métropole a réalisé un complexe animalier sur près de 2 hectares, cofinancé par la communauté du bassin de Thon, communauté nord-bassin de Thon, les communes de Palavas et Mouglio. Donc, aujourd'hui, Montpellier Méditerranée Métropole sollicite la commune de Mondio en vue de constituer un groupement de commandes publiques que je vous propose aujourd'hui en fonction de l'ordonnance 2015-1890 du 23 juillet 2015 relative au marché public, donc avec des prestations relatives à la récupération, à l'accueil des animaux errants, la garde et l'euthanasie malheureusement en fonction de leur état sanitaire. Donc les prestations sont rémunérées par un prix global et forfaitaire qui est réalisable et le marché sera conclu pour une période initiale de 3 ans à partir du 2 janvier 2017, reconduit par période successive de 2 ans, dans la limite de 2 reconductions. Le montant global du marché est dans une fourchette incluse comprise entre 500 et 600 000 euros. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes de la communauté d'agglomération du bassin de Thon, la communauté de communes du Nord bassin de Thon, la commune de Palavas et Montpellier Méditerranée Métropole et de m'autoriser à signer. On passe au vote. Pour. Contre. Abstention. Je vous remercie. Avenant 1 et 2 au contrat d'assurance et risque statutaire auprès de la SMAG. Le marché public d'assurance a été renouvelé suite à un appel d'offres à compter du 1er janvier 2015. Certains éléments n'avaient pas été pris en compte, donc au niveau des salaires. Et donc aujourd'hui, il convient de passer à l'avenant, puisque le montant des salaires était de 8 091 729,71 €, alors que le montant déclaré à titre de provision était de 7 624 456. Bon, c'est un réajustement qui fait que la cotisation provisionnelle elle est passée à 105 217 et qu'il faut qu'elle passe à 51 667 sur un delta de 6 448 €. Bon, je vous demande de m'autoriser à signer l'avenant. Si vous êtes d'accord. On passe au vote. Pour.
Contre. Pas d'abstention, merci. Et puis, on en a venant au marché public de fourniture de carburant. Donc, le port de Carnon a acquis en 2015 un chariot évaluateur à Fourche. Ce chariot a été mis en service et fonctionne au gasoil et non au fuel domestique. Voilà. Donc, il faut résilier un marché pour pouvoir, disons, alimenter ce nouvel outil. Et donc, il faut augmenter le lot numéro 5 relative à la livraison de gasoil mondiaux attribué à la société Ramon pour une quantité. Donc, vous avez dessous les périodes de marché et les unités qui sont livrées. Donc, je vous propose d'approuver l'avenant permettant de relever les seuils minimum et maximum du lot 5 et de le passer à 305 000 euros. Voilà. Mini 5500 et un maxi 300. Vous avez compris là. On passe le vote pour, contre, pas d'abstention.
J'ai une question que je me pose, c'est je profite de ce point de vue pour poser cette question. Pourquoi, j'imagine qu'il y a une raison, pourquoi il n'y a pas un total access, donc à tarif donc d'essence bas, tel qu'il y a à Carnon, à Moglio. Je me pose la question, est-ce que c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, à Carnon, il y a un total access avec un prix d'essence très très bas, et à Moglio, il n'y en a pas. Et, alors qu'il y a une station totale, mais qui fait des tarifs. Que c'est pas possible, il n'y a pas possibilité de convertir le total de Moglio en total access, ce qui permettrait d'ailleurs de remettre un coup de pinceau.
Effectivement,
je vais administrer l'économie. Calme-toi,
on n'est pas encore.
Oui, c'est une mairie qui nous attend.
Non, c'est une réflexion intéressante, je ne peux pas répondre. Effectivement. Écoutez, on posera peut-être la question au fournisseur. Quelle est notre stratégie en termes de fournisseur?
Il y a 15 à 20 centimes d'écart.
Oui, oui, oui. Tout le monde sait ça, quoi. C'est vrai que ce n'est pas neuf. Hein. Ce n'est pas neuf, ah, oui.
C'est quoi le total access?
À Carmon, avant de. Enfin, au rond-point, là, tu as un total access. C'est des stations totales qui font des tarifs très bas au même prix que Carrefour.
Ah voilà,
c'est
la
discussion du total ici. Le total ici, c'est un total normal, c'est-à-dire c'est 20 centimes plus cher au litre.
Un service indigé
sur le total access. Voilà.
Donc, bien. On va suivre. Donc, je vais donner la parole à M. Cassard pour le point noir sur la zone d'aménagement différé de la faune de Moglio. Je précise simplement que l'outil des ZAD a été, la première arme dont ont disposé les communes pour permettre de. On n'a pas voté le point. Si, on a voté. Non. On va voter. Si, allez, on va voter pour le Brexit. Je vous demande d'approuver l'avenant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Oui, je disais en préambule que l'outil des ZAD avait été l'arme dont les communes se sont saisies. Nous avons été le premier à le faire pour justement le permettre d'avoir la propriété des terrains pour développer des programmes des programmes d'habitat. Nous avons rencontré les services de l'État récemment par rapport à la Fonde de Moglio, où effectivement commence à prendre une nouvelle révision de BPRI. Nous avons bien entendu fait le tour de la question en disant bien à l'État auquel on m'a donné 170 000 euros pour 40 logements sociaux l'année prochaine, je le rappelle, que nous avions travaillé sur l'anticipation des aléas forts et que aujourd'hui, disons, la seule extension de cette part de la ville permettrait, associée à la requalification urbaine, ça fera plaisir à M. Spadel, donc que nous n'avons pas oublié dans ce travail de dentelière que vous aimez tant, au crochet, donc justement de permettre de retrouver l'énergie au niveau de la vitalité économique, au niveau de la vitalité démographique des Belgoriers. Voilà. Donc ce projet va être de nature également améliorer l'existant, notamment en termes hydrauliques. Bernard, si tu veux bien prendre le point. Merci.
La ZAD de Lafond a été créée par arrêté préfectoral du 25 août 2006 pour une durée de 14 ans, soit jusqu'au 25-08-2020. Le 3 juin 2010, la loi sur le Grand Paris a d'une part ramené la durée des ZAD à 6 ans renouvelables et d'autre part fixé au 6 juin 2016 la date de caducité des ZAD qui sont antérieures à 2010. Il est donc nécessaire de prévoir le renouvellement de la ZAD de Lafond avant cette date pour une durée de 6 ans renouvelable à son terme. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter M. le préfet pour le renouvellement de la ZAD de Lafond conformément à la législation en vigueur.
Oui,
M.
le maire. D'abord, j'aurais souhaité, moi, mais bon, je n'ai pas demandé, je n'ai pas écrit au service, c'est-à-dire que le point 16 aurait dû se retrouver avant le point 11 parce que j'ai fait un lien entre les deux. Vous avez entrepris une démarche de nommer un bureau d'études pour travailler sur les projets, la qualification de l'urbanisme à Mourioux, etc. C'est une bonne chose, mais ça aurait dû se faire avant d'engager tout cet argent qu'on engage depuis tant d'années sur la fonte de Mourioux. Donc, moi, je voulais vous proposer une sorte de marché, c'est de dire, bon, d'accord, mais on nomme ce bureau d'études, on travaille sur la vision qu'on a de Mourioux, comment on peut avancer dans le Mourioux de demain, et en attendant, on fait un moratoire sur la fonte de Mourioux. Parce que là, on vient de mettre de nouveau 85 000 euros dans des études hydrauliques, et c'est un gouffre sans fin, c'est la fonte de Mourioux. Donc je pense qu'il aurait fallu mener cette étude que vous allez mener maintenant, bien avant de continuer à mettre de l'argent dans la fonte de Mourioux.
Monsieur Mourguet, tout le monde a compris que vous êtes un inconditionnel de l'opposition à ce projet, ça, c'est votre droit. L'étude que vous évoquez en page 13, le point 16, c'est une étude urbaine, mais une étude urbaine, ça ne veut pas dire une étude dédiée au seul logement. C'est une étude sur les fonctionnalités de la ville, sur la manière dont on imagine son développement, ce qui n'a pas été forcément fait dans les mandatures précédentes. La fonte de Mourioux, c'est...
Ça, je l'ai bien compris.
Voilà.
C'est ce qui aurait dû être fait bien avant qu'on attaque la fonte de Mourioux.
La fonte de Mourioux, monsieur Bourguet, est une chance, j'espère que très rapidement, nous pourrons la mettre en œuvre. Et en ce moment, nous sommes en train de faire le rendu des équipes hydrauliques. C'est un projet dont on va parler, il va y avoir des ateliers participatifs, l'habitat participatif fin juin. Et j'ai tenu à ce que vous soyez associés justement à la consultation du point 16, puisque nous considérons de manière très démocratique que même les opposants ont le droit à la parole, dans la mesure où ça se fait dans un cadre qui est tout à fait serein, réglementaire et respectueux. Voilà. Donc là-dessus, vous avez un point de vue, j'en ai un autre. Je vous signale au passage quand même qu'on a commencé cette réflexion en 2006 et que je souhaite que demain, quand je dis demain, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien on se félicite quand même de cette tournure, de cette vision que nous avons eue, de cette anticipation, qui permettra justement à nos jeunes demain de rester présents. Voilà. Donc je vous demande de passer.
Je pense que vous savez qu'il y a un collectif qui s'est créé, notamment un collectif de riverains.
C'est l'exercice de la démocratie. Je n'ai pas pour habitude de reculer devant mes convictions. Nous verrons à l'usage ce collectif recevra comme réponse. Nous avons, moi je suis serein sur la conduite de ce projet. Leur aménagement travaille dans l'acheter avec la commune là-dessus. Nous avons un cabinet, un maître d'œuvre, Michel Associé, qui est excellent, qui a fait ses preuves sur l'échiquier français. Nous avons anticipé sur les aléas forts. Et vous verrez, bien sûr, on va devoir mettre de l'argent pour protéger, pour aménager par rapport à l'hydraulique. Ça fera des sommes certainement relativement importantes, oui, mais des sommes qui ne profiteront pas qu'à cette seule opération, puisque les routes sont régulièrement inondées. Vous êtes peut-être partie des gens qui le dénoncent, vous avez raison. Vous vivez vous-même dans un endroit qui est souvent inondé. Donc il appartient au maire, à sa commune, à son conseil municipal, de prendre toutes dispositions utiles pour justement améliorer les situations existantes. Et la zone géographique dans laquelle s'inscrit la fond de Mouillot est une zone beaucoup plus petite que l'étude que mène le CIMO, que l'étude que mène la commune également avec le cabinet Régisseau et Gérard, pour justement arriver à solutionner d'autres installations, comme par exemple les stades du Calvé, qui ont été inondées à plusieurs reprises et qui n'ont rien à voir avec la fond de Mouillot. Justement, la fond de Mouillot permettra de résoudre certains problèmes. Bon, cela dit, c'est un débat dont nous aurons l'occasion de reparler. Aujourd'hui, il s'agit de reconduire le renouvellement de la zone. Monsieur Capelle.
Oui, je profite pareil de ce point pour poser une question. Donc, la fonte de Mouillot va entraîner des travaux hydrauliques et de voiries conséquents. Que évidemment la commune ne va pas financer seule, le département, la région, j'imagine, sont.
Nous aurons des partenaires, oui.
Est-ce que ces financements sont assurés? Est-ce qu'il y a des garanties sur ce point-là, où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que j'imagine que du financement de ces travaux de voirie dépend le démarrage des travaux.
Non, aujourd'hui, ce qui conditionne le démarrage, c'est. Le dossier d'eau sur l'eau. Le dossier d'eau sur l'eau dira quand nous pouvons commencer, disons, les travaux, et ensuite le financement sera, disons, on fera tourner les bilans, voir comment l'articulation entre la participation de la commune pour ce qui est extérieur à la zone se concrétise, ce qui est inhérent à la zone se concrétise aussi, et voir quelles seront les participations des autres partenaires que vous avez cités, il y a l'État. Il y a le département, il y a la région. Nous sommes en train de finaliser ces partenariats qui ne sont pas, disons, le postulat pour démarrer l'opération. Évidemment, une opération de cette ampleur devra s'équilibrer. On n'est pas là pour faire des bénéfices, on n'est pas non plus pour produire un rendu qui sera plus cher que ce que le privé fait. Au final, il y aura une amélioration des conditions, y compris au niveau de la circulation, grâce à ce projet, par rapport aux populations existantes. Je ne vous dis pas que c'est la recette miracle, mais justement, si l'État, j'en parlais encore à M. le préfet ce matin, si l'État justement nous suit dans cet accompagnement de cette opération, c'est qu'à la fois il est l'ordonnateur de création de nouveaux logements, même si la densification urbaine en amènera quelques-uns, mais c'est aussi, il nous a dit que ce serait très certainement le dernier endroit, on n'avait pas attendu qu'il nous le dise, où on pourrait également densifier, étendre les villages. Et il nous a mis aussi en garde contre une densification excessive en centre-ville, qu'une étude urbaine nous aidera, M. Bourguet, parce que je vous écoute quand vous me dites on laisse des légumes là-bas à la fond de Mouillot et on met davantage de gens au centre de Mouillot, mais il y a un danger, c'est que quand vous avez un espace qui n'est pas initialement aménagé avec des voiries, avec des réseaux, vous faites pire que ce qu'on avait imaginé. Donc, il convient aussi de calibrer. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une seule solution. Les solutions, souvent, elles sont multifactorielles. Il y a une part à faire dans la densification et une part à faire à l'extension, qui va permettre aussi d'aménager, au niveau des voiries et des réseaux, une situation existante. Donc, on vous dira au moment où on aura ce dossier sur vous. Monsieur Prodé.
Oui, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était les zones à défendre, on est en train de réinventer l'aéroport, on va avoir des hippies partout qui vont mener la bagarre comme du côté de l'Inde. Bon, vous.
Ça peut arriver.
Je soulevais le dire.
Vous, bon, vous renouvelez, c'est un acte administratif qui n'a pas, une importance extraordinaire. Par contre, profitons-en pour faire une politique un peu de politique clairement. Monsieur Bourguet fait le lien avec l'étude que vous proposez sur l'ensemble de la ville. J'entends bien le débat qui a lieu. Moi, je pense qu'il faut le politiser tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord pour donner un blanc-seing si il n'y a pas les emprises au sol pour faire du transport en commun entre Montbiot et la Fondation Montbiot. Je ne suis pas d'accord si on n'anticipe pas les nécessités de déplacement de nous. Et pour l'instant, on ne voit rien venir. On avait échangé avec vous sur la nécessité d'avoir les études hydrauliques. Vous nous avez dit que c'était pour fin avril. On est en mai. Pour l'instant, on n'est toujours pas en capacité de discuter. Je ne suis pas d'accord pour vous donner un blanc-seing sur le chèque qu'il faudra faire pour l'hydraulique sans avoir vu. Donc on est très en retard par rapport à ça. Et d'ailleurs, on le voit hein, par les premières pistes, c'est un dossier qui s'étale à longueur. Par contre, moi, je pense que ce qu'il faut... j'ai bien entendu ceux qui ne veulent pas qu'on construise ni là, ni là, ni là, ni là. Ça, j'ai bien compris. En règle générale, ça, c'est pas des gens qui votent sur des couleurs proches des miennes. Par contre, ce que j'aimerais bien qu'on ait comme débat tous ensemble, c'est où on met nos gamins. Parce que si on continue à les mettre à Lunel, à Nîmes, moi, ça, c'est un truc qui ne me revient pas. Donc, j'aimerais qu'on puisse porter ensemble, ou pas ensemble, ou les uns contre les autres, notre vision du développement de la ville. Ce que je sens bien, moi, que dans le village, il y a ceux qui sont contre le développement de la ville de Montbiot. Je sens bien ça. Et on ne peut pas continuer comme ça. On va se retrouver avec plus un seul jeune dans Montbiot. Donc ça, et la solution de l'aider plus loin là-bas à la fin de Montbiot, ce n'est pas une solution satisfaisante. Donc moi, par rapport à ça, sur la fin de Montbiot, je pense que par rapport au projet initial, vous aurez tout à fait intérêt à le reconfigurer pour qu'il soit moins effrayant, plus modeste et mieux et plus facilement, insérable dans le développement de la ville dans son ensemble. Et on a intérêt à faire de la requalification urbaine beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce qu'on fait. Quand on prend les logements, les logements vacants, on a l'équivalent du projet Fondamentaux. Là, il y a un enjeu. Alors, on a un outil fiscal puisqu'on va les fiscaliser, mais il faudrait peut-être qu'on ait un outil aussi incitatif pour que les logements vacants de Montbiot, on les utilise pour reconfigurer notre habitat. Donc là, il y a toute une bataille positive à mener. Et moi, je ne suis ni pour le tout à la fond de Montbiot, ni pour le on n'a qu'à pas s'occuper de nos gosses. Je pense qu'il y a un bon équilibre et il y a une bataille politique à mener.
Bien. Vous nous avez fait part de votre point de vue, on ne va pas rentrer dans un débat nouveau. Moi, ce que je vous dis, c'est aujourd'hui, c'est une chance pour pouvoir offrir un logement à des gens qui aujourd'hui en sont exclus. Voilà ma vision politique des choses, ma vision humaine des choses. Et puis, on verra qui a raison. On va passer au vote. Qui est pour le renouvellement de cet état ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Deuxième point que va présenter M. Cassard, et j'ajoute que ce point avait été, je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire, ce point avait été retiré lors du jour du Conseil de mars, puisque les services de l'État n'étaient pas très favorables à l'extension de la Mougère de la zone économique. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait avec M. Cassard, par les services, par moi-même, avec l'agglomération, avec les services d'agglomération, avec leur aménagement également, pour arriver à convaincre l'État, justement, que la lecture un petit peu restrictive du SCOT, avec une flèche qui n'est pas tout à fait de bon sens, avait arrêté ce projet. Donc nous avons eu une réunion récemment avec les partenaires que je viens de citer en préfecture et nous avons obtenu de la part du service de l'État, de la préfecture générale, feu vert pour développer cette zone d'activité, enfin, la zone de la Mougère, où on va pouvoir déployer l'agrandissement de certaines entreprises existantes, et enfin, voir que l'aspiration que nous avons, celle de création d'emplois, va devenir une réalité, et ça, d'ici la fin de l'année, donc le dossier devait être prêt. J'ajoute en même temps qu'il y a un gros travail qui est fait avec les services aéroportuaires pour justement dynamiser cette zone. Donc, nous inviterons dans quelques temps, peut-être à une modification du PLU également, mais notre révision, pour justement arriver à relancer des fois des activités qui semblaient perdues et qui aujourd'hui nous permettent d'imaginer que les ports de l'aéroport vont pouvoir, parce qu'on a changé la configuration de la zone et qui ne sera plus une zone commerciale, mais une zone avec des locaux d'activité, va permettre justement avec les partenaires, que ce soit le département, l'aéroport, l'État et la communauté d'agglomération, en complémentarité à ce que fait la métropole de Montpellier-Rennes, va nous permettre d'améliorer l'offre économique et en même temps l'état hydraulique et l'état des réseaux qui se déroulent sur cet endroit, puisque dans quelques temps on travaillera sur la zone aéroportuaire. Voilà. Ce que je voulais dire en préambule.
La procédure de révision allégée du PLU concernant le secteur de la Mougère, actuellement placé en zone 1 à UE2 et NP du PLU, a été lancée par délibération du 18 mai 2015. Le dossier y afférent et un registre destiné à recueillir les observations du public ont été mis à la disposition de ce public en mairie. L'état d'avancement du projet de révision permet aujourd'hui au conseil municipal d'arrêter ce projet et d'en tirer le bilan de la concertation. Ce dossier sera ensuite présenté aux personnes publiques associées avant sa mise à l'enquête publique. Pour votre information, ce registre qui a été mis à disposition du public n'a jamais été rempli d'aucune observation par ce dit public. Monsieur le maire propose donc, conformément à l'article 103.6 du Code de l'urbanisme, d'arrêter le bilan de la concertation et le dossier du projet de révision allégée du PLU en vue de son approbation définitive.
Merci, madame. Donc, vous avez été le signataire du document, vous avez entendu. La zone qui était tout à fait à mon droit, côté de Rompuy, qui se transformera en corporation en zone économique pour justement permettre le développement de cette place en prolongation de ce genre de. Des questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense que M. Brugueux, il faut quand même proposer de l'activité aux jeunes qui n'ont pas de travail. Mais bon.
Ça impacte l'inondation de rond-point de l'aéroport.
Je vous ai dit. J'ai jamais pensé que c'était en construisant des hangars qu'on crée de l'emploi.
C'est pas des hangars, monsieur.
Vous verrez. Pour le moment.
Vous verrez. On fera le bilan des créations d'emplois.
Pour le moment, nos zones sont pitoyables.
Oui. J'attends vos propositions. Point suivant. Point 13.
Le dossier de permis de construire déposé par la SNC Lidl pour la création d'un magasin en prolongement de la ville a été soumis à l'avis de l'ODF. Une extension de réseau électrique d'un montant de 18 164 euros s'avère aujourd'hui nécessaire. La commune doit faire l'avance et se faire rembourser par Lidl, comme ça se fait dans toutes les opérations d'extension du réseau. Monsieur le maire demande donc l'autorisation de payer ses travaux et d'émettre un titre de recette à l'encontre de la SNC Lidl d'un montant de 18 164 euros.
Oui, j'ai cru comprendre, bon, c'est un peu à la marge de la question posée, mais il va y avoir un rond-point qui va être fait, je crois, à la place du feu rouge, oui. Ouais. Est-ce que c'est Lidl qui va financer ce rond-point?
Oui.
Est-ce qu'on va avoir des exigences pour pouvoir faire une traversée cyclable de la route, vu que le département va investir sur la route de l'autre côté pour aller vers la gare? Donc, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une traversée cyclable du rond-point?
C'est prévu. Il y a une concertation entre Lidl, le département et nous. C'est prévu.
D'accord.
On passe au vote. contre. Abstention. Point 14.
Alors, c'est la même chose, c'est une extension de réseau, mais c'est pour un parquet sujet. Par délibération du 10 février 2014 et dans le cadre du permis d'aménager délivré le 20 février 2014 à Madame Legaz, c'est pas un gaz, hein, c'est le gaz pour de l'électricité, le conseil municipal a autorisé le paiement des travaux d'extension du réseau électrique pour un montant de 3 179,66 € et l'émission, bien sûr, d'un titre de recette du même montant à l'encontre de Madame Legaz. Suite à un permis d'aménager modificatif délivré le 12 décembre 2014, il s'avère que le coût de l'opération d'extension s'élève en fait à 7 128,40 €. Monsieur le maire demande donc l'autorisation d'annuler la délibération du 10 février 2014 et d'autoriser le paiement du nouveau montant des travaux, soit 7 128,40 € et d'émettre un titre de recette du même montant à l'encontre de Madame Degas.
Pourquoi les travaux n'ont pas été faits plus tôt?
C'est un prix, cette pétition-là qui est.
C'est une cause d'ordre, mais si le prix déjà au départ était sur le privé, était dérangeant. Ah, il y a une augmentation.
Il n'était pas dérangeant, il a fait une modification de son projet qui fait que le prix est en augmentation. Voilà. Donc.
C'est plus cher.
Alors la modification en question, c'est l'enterrement du réseau. C'est pas fait d'un réseau à l'air. C'est justifie l'augmentation.
Tu penses au vote? Oui. Pardon? À côté, je suis M. Clavier. Tout le monde a ses remises, c'est top.
Comme dit ma voisine, à côté de chez Madame Legal.
Bon, on passe au vote. Pour, contre, abstention. Merci. Danick, à toi.
Alors, réaménagement des locaux du CCS et de l'agence du conseil départemental à Mougio avec des demandes d'aide financière. Donc, monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la commune a prévu pour l'année 2016 le réaménagement des locaux du CCS, dont ceux occupés par l'agence du conseil départemental à Mougio, pour un montant des dépenses estimé à 231 000 € hors taxe, soit 227 200 € TTC. Donc, vous avez une liste sur la réhabilitation, notamment la conformité pour l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a deux demandes d'aide, une auprès de l'État, au titre du fonds de soutien à l'investissement public local. C'est donc sollicité, et monsieur le maire demande aux membres présents de l'autoriser ou d'adjoindre délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire, et l'autre qui concerne la réserve parlementaire pour une subvention de 10 000 euros.
C'est la sénatrice.
Donc c'est l'INIA, donc pas vraiment l'INIA. Ça vous pouvez imaginer. Monsieur. Voilà.
Merci. On passe au vote. Pour. Contre. Attention. Merci. Que vous pouvez venir.
Alors, demande de subvention pour compatible auprès de tout organisme habilité dans le cadre d'une étude urbaine sur l'ensemble de la commune. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qui convient de dessiner le futur de Mougio Carnon à l'horizon 2030. Donc, c'est un objectif que la commune s'est fixé, on en a parlé tout à l'heure, en initiant la définition d'un schéma de développement stratégique. Donc, la ville a lancé une étude urbaine sur l'ensemble de la commune qui permettrait de définir spatialement la stratégie de développement et qui comprend plusieurs volets, donc un volet potentiel de densification et mutabilité des tissus urbains existants et un volet de qualification et mise en valeur de la station de Carnon. L'étude, le montant est estimé à 70 000 € hors taxe, qui sera lancé à compter de mi-juin 2016 sur une durée de 6 mois. Et il est proposé de solliciter auprès de tout organisme habilité une subvention la plus élevée possible compte tenu des dépenses estimées à 70 000 € hors taxe, c'est-à-dire 80 000 € TTC.
Parfait. Madame Comarou.
Je me permets de vous transmettre mes inquiétudes par rapport à une étude urbaine. J'aimerais bien, puisque on se projette à long terme, qu'on prenne en compte véritablement les richesses et les difficultés de notre territoire. Les difficultés, c'est surtout des risques d'inondation, et ce qui veut dire qu'il nous faut la possibilité d'évacuation. Or, je veux dire, cette idée-là n'est pas prise en compte dans nos opérations d'urbanisme, et je rappelle que notre territoire est soumis au risque de tsunami. Le tsunami ne sera pas provoqué localement, loin ni loin, ce qui nous donne le temps d'évacuer. Mais encore faut-il qu'on ne se retrouve pas dans une configuration cévenole qui bouge complètement le rond-point de l'aéroport, car non, complètement impossible à évacuer, et d'autre part, le tsunami qui recouvrera aussi nos biens. Donc il y a véritablement, si on veut étudier notre problématique, il faut qu'on puisse remonter ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment c'est à prendre en compte en long terme, parce qu'on aura du mal à installer ces choses-là. Mais le tsunami peut arriver demain après-midi comme dans 200 ans. Donc, mais c'est notre responsabilité de prendre ça en compte. Et nous avons une nappe phréatique d'importance régionale à respecter.
Madame Comaros, je vous laisse libre de prononcer vos avis, bien sûr. Mais vous voyez le mal partout. On est en train de dire qu'on essaie d'envisager une étude urbaine pour voir comment certaines configurations peuvent se faire. Vous semblez ignorer que nous travaillons, vous dites, vous mettez en cause l'urbanisme qui ne prend pas en compte les principes de précaution. Je ne peux pas vous laisser dire ça, madame. On n'est pas des irresponsables. Vous parlez comme si on était dans une bulle et qu'on ne tient compte de rien, quand même.
On parle toujours de développement, de toujours plus, et madame, pas comment mieux vivre.
Dites-moi,
localement.
Madame, c'est une étude. Dites-moi combien on a fait de logements en plus à Carnon depuis ces 10 dernières années. Malheureusement, on doit payer l'amende parce qu'on n'en fait pas suffisamment. Je ne suis pas jusqu'au boutiste. Mais à un moment donné, il faut quand même régénérer un petit peu la ville. Ce dont on parlait, monsieur Paré, tout à l'heure, si vous n'en voulez pas des jeunes, on ne va pas quand même les envoyer tous ailleurs. Il faut quand même se préoccuper de tout ça. Et moi, je ne veux pas les noyer.
Il faut envoyer les jeunes à des endroits où il y a des transports en commun, où ils peuvent trouver de l'emploi.
On vient d'ouvrir des lignes. Allez, ça suffit maintenant. On demande une subvention et vous nous parlez de la pluie. Allez.
Juste une chose, je ne vais pas refaire le débat de tout à l'heure. Mais c'était une note positive pour dire que je répondrai favorablement à participer activement à rencontrer le bureau d'études, etc.
J'ai veillé à ce que vous soyez désigné, monsieur.
Je le sais, j'ai reçu votre courrier et je participerai volontiers.
C'est bien. Voilà, comme on parle de temps en temps, on peut se rejoindre là. Sans se mouiller les pieds. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur Balsamon, Dominique, port de Carnot.
Dans le cadre de la manifestation nautique organisée par le port de Carnot, il est proposé aux membres du conseil municipal d'offrir une prestation de levage à chaque premier primé. 3 bons de levage pour la fête de la mer, 2 bons de levage pour la régate estivale et 1 bon de levage pour le poisson d'été. Monsieur le maire demande aux membres présents d'autoriser les dotations en levage pour les manifestations portuaires.
Voilà, j'apporte quelques précisions. C'est-à-dire qu'en fait, il est proposé d'offrir une prestation de levage aux lauréats. Parce que, en fonction de l'importance, c'est assez fin comme affaire, il a été oublié dans la délibération deux bons de levage pour le Fishing Club. Le Fishing Club organise depuis une fois tous les deux ans une manifestation au cours de laquelle on accorde un prix au Fishing Club et à l'association sportive de pêche carnonaise, aux deux premiers. Ça fait déjà deux. Poisson d'été, un. La régate de l'estival, deux bons de levage, premier et deuxième prix. Fête de la mer, deux bons de levage, au premier et deuxième prix. Oui. Et ensuite, on accorde un bon de levage à la société de pêche sous-marine, GPERS. Il y a une autre association dont M. Gournay est le président,
Alors, on le fait en toute transparence pour ne pas qu'on dise, tiens, il le donne à lui, pas aux autres. Voilà. Donc, en fait, on le donne au lauréat de certaines courses, plus à deux associations de pêche sous-marine qui participent à la fête de la mer. C'est une disposition en raison de leur mise à disposition de bateaux gratuitement pour faire certaines choses. Voilà. Donc, si vous voulez, vous retrouverez dans la délibération que ce soit les lauréats, et que ce n'est pas forcément à chaque fois le premier primé, plus deux clubs de plongée et le fishing club qu'on avait oublié. Voilà. Comme ça, vous l'aurez récapitulé. C'est un petit peu compliqué parce que je me le suis fait expliquer d'autres fois. Tout ça pour quelques mois de gavage, mais au moins on est dans notre transparence, qu'on ne dise pas parce que c'est des copains du maire, des copains de M. Balzamou, des copines de M. Banque.
Non, quand même pas.
Ça sert le nez qu'à l'ordre de notre nez. Voilà. Bien, donc je vous demande de m'autoriser, et vous aurez bien sûr le compte rendu in extenso de cette disposition. Allez, qui est pour? Qui est contre? Abstention? Voilà. Patti, tu prends la
point 18. Alors, on parle ici d'un don fait par une association en vue de l'organisation d'une animation pendant la fête routine. En effet, dans le cadre d'un projet étudiant qui a été mené par la commune et initié depuis des années, un groupe d'étudiants rassemblés à une association, la BDE, de Montpellier, s'est proposé de mettre en place une animation sportive ayant pour thème un contest de 30 mètres sur le site du skatepark le 17 avril 2016. À l'issue de cette manifestation, les bénéfices générés par la buvette devaient permettre de financer une partie de l'organisation, une animation pour la journée de la fission le mercredi 17 août 2016. Le groupement d'étudiants ayant récolté un bénéfice de 505,20 € lors de ce contest de trottinette, je propose bien sûr de le reverser pour financer une partie de la journée de la fiction. Comme M. le maire demande aux membres du conseil municipal l'autorisation de la convention de l'association BDE-DC.
Alors, je précise que c'est une action par le passé. Madame Laurent, à des étudiants universitaires qui nous avaient fait un travail remarquable sur l'accueil. Et là, dans le projet pédagogique universitaire, je ne sais pas, je le dirai mieux que moi. Donc, il y a eu cette idée de faire une action qui est formatrice pour, disons, leur futur métier et qui permet en même temps d'être une action initiée par des jeunes pour des jeunes. Voilà. Cela dit, je précise que si l'activité de la fête ne dépend pas de la collecte qui peut être faite par cette action, personnellement, je salue l'initiative de Mme Laurent et de ses élèves au bénéfice des jeunes de la commune. Bon, au moins, de temps en temps, il faut montrer qu'on est capable de se donner les moyens de partager le bon moment. Voilà. Des questions? On y va? On passe au vote. Pour? Contre? Abstention? Il n'y en a pas? Voilà. Ensuite, c'est le...
Point 19. Donc là, il s'agit d'une approbation des conventions de partenariat que nous établissons pour la Romerie à 2016. On peut se féliciter de l'intérêt de nos entreprises locales pour cette manifestation. Je n'invite pas à nos seuls administrés, le tissu économique aussi est partie prenante dans cette manifestation-là. Alors, dans ce partenariat efficace, pour étoffer notre programmation de la manifestation et pour valoriser au mieux les traditions, on retrouve trois partenaires. Le premier partenaire étant l'entreprise Intermarché, qui s'engage à verser la somme de 2 500 € pour permettre notamment le financement du spectacle équestre organisé aux arènes le samedi 11 juin et de prestations artistiques à l'occasion de la soirée de présentation de la Romeria aux arènes le 26 mai. La contrepartie qui est avancée est une visibilité sur les différents supports de communication, tels que les affiches, les bâches, les cafés monos de la Romeria, les banderoles, les annonces presse, le site internet de la ville et les programmes. Le deuxième partenaire qui se joint à nous est l'entreprise Tendance Flamenca,
qui s'est amusée dans la vente d'articles de flamenco et qui s'engage, elle, à donner de nombreux articles et accessoires à la ville pour récompenser les différents participants à la scène ouverte dimanche après-midi, et ce, à une hauteur de 400 euros. En contrepartie, la ville lui accorde une occupation gratuite du domaine public pendant la remeria et une présence à l'occasion de la soirée de présentation. Le dernier partenaire étant la SOR, elle s'engage à verser à la ville un montant de 500 euros TTC, permettant le financement des récompenses des trois premiers gagnants du concours de Paella. La contrepartie étant aussi la position d'une banderole fournie par l'entreprise dans l'enceinte des arènes.
Voilà.
Donc, monsieur le maire demande au membre présent de l'autoriser à signer les conventions de partenariat précitées.
Voilà, exactement là, dans ces affaires, on a deux choses. La première, c'est justement le symbole de ces fêtes, de ces moments forts que sont la fête motive et la romerie, qui sont des moments de rencontre et de moments emblématiques nous vivons ensemble. Et en même temps, le partenariat au niveau de la vitalité économique avec des acteurs économiques majeurs qui ne sont pas tirés au sort ni sollicités en particulier. Ils choisissent eux-mêmes les champs d'intervention. Monsieur Albert pourrait vous en parler au niveau associatif. D'autres sponsors agissent pour justement aider les manifestations. Et je salue moi cette synergie entre les partenaires économiques locaux et les moments où l'espace public est investi par ces moments forts de notre vie mémorielle. Monsieur Sachet.
Moi, je m'étonne juste une chose, c'est de ne pas voir Lidl.
La politique du groupe Lidl n'est pas de sponsoriser sur l'Hexagone toute manifestation. Ils ont une politique assez particulière. Ils sont des acteurs économiques, mais pas des partenaires économiques au sens tel que celui qui est exposé dans le point. Pardon ?
C'est pas les points.
Non.
Déjà, quand même, on leur fait droit d'un terrain au détriment d'Intermarché, je suppose.
Non,
mais bon, je veux dire, c'est pas qu'Intermarché, on est de demander que Lidl se développe sur la commune.
Mais dans le résumé des épisodes précédents, la commune s'est opposée au titre du respect de l'équilibre économique. Nous nous sommes opposés à une extension excessive qui les a menés à 500 mètres carrés ou 1700. On les a autorisés à rose, c'est ça.
Oui, non, voilà. À part ça, ils participent un petit peu plus à la
commune. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est tout à fait. Oui.
Je vois la sort à 500 euros. J'imagine que la sort doit donner quand même un petit ticket sur l'ensemble de l'année à la ville. À la louche, elle s'investit à quelle hauteur dans nos activités associatives, culturelles et sportives ? À la louche, hein, c'est quoi ? C'est 5 000 ou 5 000 euros ?
Non. Monsieur Prenet, ça amuse.
Non, mais attendez.
Ça amuse.
700 euros. C'est tout ce qu'elle donne sur l'ensemble de l'année ? Ça veut vous plaisanter ?
Non.
Et ça représente ça, 500 euros, c'est l'augmentation de ce qu'ils ont réussi. À la dernière recontractualisation, c'est l'équivalent en augmentation de 4 ou 5 compteurs, pas plus. Hein. Il en reste d'autres.
Au jeu lyonnais, ils ont.
Combien ? À quelle hauteur ?
10 000 euros ? Je sais pas combien.
Non,
mais il ne faut pas faire de corrélation entre l'exploitation du fermier qui est une chose. Déjà, l'attribution de la DSP n'a pas été quelque chose de simple. J'étais président de l'agglomération quand ça s'est passé, vous le savez. Après, ils n'exigeraient du tout. Ils donnent s'ils veulent, s'ils ne veulent pas, ils ne donnent pas.
Mais moi, je pense que le fermier, ça ne veut pas que les fermiers sur notre territoire ont un de 500 euros par maladresse. Il faut lui rappeler que les fermiers sur notre territoire. Parce que c'est indigne, il vaut mieux qu'ils donnent rien. Il faut leur donner une vache de combien de 50 cm carrés aux arènes.
À la hauteur de 500 euros.
Donc, bah, là, moi, c'est. Je vais accompagner parce que c'est pas. J'ai presque envie de vous demander un vote par division. On va présenter
comme les compteurs.
Oui, comme les compteurs. Non, la source sont manquée de nous.
On avait obtenu 3500 euros pour la restauration du dispensaire de Djebok.
Oui. Il y a parfois des sommes qui sont accordées sur des projets spécifiques, mais en termes de fonctionnement au niveau associatif,
Je me tourne avec, je ne sais pas, je me tourne vers Jeanne. Oui. Voilà.
Ceci dit, l'engagement de la société par rapport à la manifestation est essentiel. On est bien d'accord. Donc, on a eu quand même quelques difficultés par rapport à la romerie et par rapport à l'image du taureau. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi. Certaines entreprises sont pour, d'autres sont contre. C'est difficile. La romerie, c'est quelque chose de particulier. L'image qu'on véhicule.
La SOR a animé des stands sur la préservation de l'environnement, au titre de l'eau, la préservation de l'eau, pendant plusieurs années, à la Grande Motte, à Carnon, à Palavas, auprès des enfants du centre aéré, par exemple. Ils ont fait des actions, peut-être plus symboliques que des dons en nature, comme là. Mais on vous le dira, naturellement. Chacun s'est mis là-dessus. Voilà, écoutez-moi, ce sont des partenaires, ils donnent un coup de main, merci à eux. Et je pense aussi que l'organisation des événements contribue aussi à réinjecter, pour certains en tout cas, de l'économie. C'est un petit peu l'économie circulaire. Hein.
Peut-être que ce que veut dire Laurent, c'est dans la recherche de nouveaux produits municipaux, il faudrait peut-être effectivement négocier ces partenariats, ce qu'a dit Dominique, ensemble chez les éléments, de façon plus commerciale, quoi, enfin, plus agressive.
Je pense qu'on a des possibilités de convention de mécénat, je pense qu'on a une fondation.
Alors, si je peux me permettre, le fait d'avoir fait intervenir des étudiants de l'université, ça faisait partie des travaux qui nous construisent tout un... Non, mais moi aussi, parce qu'ils ont fait tout un dossier sur le mécénat, avec tout un répertoire de toutes les entreprises sur le territoire qui nous permettent aujourd'hui éventuellement effectivement, de les solliciter de façon différente, que ce soit pour l'intérêt des associations ou pour tout autre projet, que ce soit pour servir la paix ou autre. Et donc on a, grâce à l'intervention des étudiants pendant un an, la constitution de tout un dossier de mécénat avec toutes les entreprises qui sont répertoriées. Et donc on espère effectivement maintenant pouvoir s'en servir de façon efficace pour la suite. Voilà.
Faire les comptes de l'Intermarché, de Netto ou de Lidl ou de la Sor, en disant, mais voilà.
Non, mais après, si
d'après mes calculs, vous pouvez me dire ça, ça vous en fasse, c'est compliqué.
Bon, non, mais par contre, la présence de l'animation de la ville, c'est pas. Ça va de quoi.
C'est parti.
Mais je sais pas, hein. Côté la frontière, vous verrez que c'est plus pratique que les autres villes, hein.
Il y en a certaines qui préfèrent le bâtiment.
Oui, exactement. Oui, mais moi, je connais que fait construire des choses, ils ont été retenus, c'est pas mal. C'est fait, c'est fait.
Si tu parles du quorum de Montpellier, ce sont les contribuables qui ont fini par le payer.
Plus ils payent, ils ont moins un quorum.
Non. Oui, ils ont un quorum, mais ils l'ont payé cher. Plus cher que celui-là, le financier.
Mais là, le quorum est atteint. Bon, allez. On passe au vote, s'il vous plaît. Qui est pour ? Qui est contre ? S'abstient, personne, parfait. Laurent ?
Alors, la consultation cette année a retenu la Peña Roman Pérez pour l'organisation de la corrida prévue pour la 28e Romerie, qui sera donc le 12 juin prochain. Pour faciliter la vente des billets auprès des Médoriens, il est nécessaire de rédiger une convention avec cette association pour en permettre la vente par nos services ainsi que via le site internet de la ville. Le montant qui sera perçu sera reversé à l'association minorée des frais bancaires des ventes en ligne. Monsieur le maire demande donc aux membres présents de l'autoriser à signer la convention correspondant à ses dispositions avec l'association Roman Pérez.
Bonsoir.
Excusez-moi, oui, bonsoir. Oui, on est là.
Bonsoir tout le monde. J'aimerais connaître le coût de la corrida l'année dernière et le coût de la corrida cette année. Et pourquoi est-ce qu'on est allé prendre une association qui ne fait pas partie de la région, la Tarascon, et ce siège à Tarascon, est-ce qu'il n'y a pas d'association dans la région qui sont à même, sachant qu'il y a deux ans, il y a une association majorienne qui s'en occupait.
Alors c'est très simple. On a d'abord fait une consultation, donc ce n'est pas qu'une association qu'on a consultée, c'est plusieurs associations. Et pour ce qui est de l'association melgorienne qui s'occupait de ça il y a deux ans en arrière, elle a, le jour même où on lui a remis sa notification comme quoi elle avait le marché, elle nous a notifié par courrier qu'elle ne voulait plus travailler avec la mairie de Montbiot. On a un écrit privé, un mail, si vous voulez, mais ceci étant dit est très clair. Donc on a recouru deux mois avant la Romeria à un autre prestataire, qui a été la société Jalabert et Frères, qui a bien voulu nous dépanner deux mois avant. Donc on remercie l'association melgorienne de nous avoir mis un peu dans la panade à deux mois de l'événement. Donc il a fallu trouver une autre solution. Cette année, on a réouvert la consultation. Ce sont d'autres associations qui ont répondu, à laquelle l'association Romain Pérez a été retenue, tout simplement. Le coût, c'est environ le coût global pour la mairie ou pour...
Pour la mairie,
c'est le même. On n'a pas changé de budget. C'est 30 000 euros. 30 000 euros.
30 000 euros l'année dernière et 30 000 euros cette année.
Oui.
32 000 euros, là, de la corrida.
Oui.
Ils vont être pris en charge par l'association.
La commune doit le prendre.
Oui. C'est la prestation qu'on demande. On paye 30 000 euros et le complément, parce qu'une corrida ne coûte pas 30 000 euros, vous en doutez, c'est plus du double, c'est presque 80 000 euros. Oui.
Non.
Oui, c'est ça. Je comprends pas.
La commune achète une prestation pour 30 000 euros à l'association qui fait sienne l'organisation de l'événement. Quel est du bénéfice ou de la perte?
La mairie, elle finance rien sur la commune.
Si, 30 000 euros. On paye 30 000 euros à une association qui se débrouille de prendre en charge la billetterie, les taureaux, les toreros, et ainsi de suite. Voilà.
Et ce qui n'est pas le prix de la corrida.
Ce qui n'est pas, on dit que c'est pas
le prix. C'est plus de 80 000 euros. Plus de 80 000 euros. Mais rien du tout. Mais c'est en fait, quand je subventionne les associations pour la culture camarade, c'est pareil. Je donne une subvention pour la culture camarade. Là, on donne une subvention pour la culture espagnole.
Bon,
et qui est beaucoup plus cher que la culture espagnole. Au niveau camarade.
Appuyez sur le micro, monsieur Sanchez. Ce qui m'interpelle un peu, c'est l'image qu'on m'a donnée de la commune de Mouillou avec un village sans pesticides. Et l'image qu'on donne de l'autre côté avec les corridas. Moi, aujourd'hui, en 2016, on parle de ça. Mais non, pas notre problème. Attendez, c'est pas notre problème. Mais moi, aujourd'hui, je m'interpelle là-dessus. Et ça me choque un petit peu, quoi. Qu'est-ce qui m'échappe? C'est l'image qu'on me donnait avec le village sans pesticides et l'image qu'on donne de l'autre côté avec les communes aujourd'hui et leur organisation. Mais nous avons des racines et nous avons des traditions. Oui, mais moi aussi j'ai des racines, mais bon, il n'y a pas de. Bon, la relation, c'est qu'il y a les pesticides et puis les taureaux sont des pesticides. Voilà. Bon, on en reparle avant. On est sur une convention. Là. Vous avez posé une question sur le coût, on vous a répondu. Allez, ça c'est. On est déjà pas fait de mal à l'avance.
C'est la position de Nelly ou c'est la position du groupe FN d'être un petit corrida?
Non, parce que moi je suis
un petit corrida. Non, mais je vais pas souvenir, mais peut-être que l'FN est contre la corrida.
Bien. Allez, on passe au vote. Pour l'autorisation de la convention, levez la main pour
Contre ? Abstention ? Je vous remercie.
Les salaires municipaux 2016 prévoient la mise à disposition de l'assiège de théâtre passager auprès des collectivités territoriales, le PCI, le domaine public, ainsi que l'application des frais de l'intérieur générant l'occupation des locaux. Il convient de préciser ces conditions de gratuité. En effet, M. Le maire propose d'acter la mise à disposition et la prise en charge de l'intérieur par la commune à titre gracieux pour les collectivités, le PCI, l'autre gouvernement public, dont le siège ou l'antenne concernée est situé sur la commune. Pour les autres, il propose d'appliquer un forfait global à hauteur de 350 euros par mois d'occupation. M. Le maire demande au président d'autoriser à procéder à la modification des tarifs communaux de 2016.
Une question, passe au vote. Pour, contre, abstention, il n'y en a pas. Abstention.
22.
Dernier point. Les modifications du règlement intérieur et de sécurité suite au comité d'hygiène et de sécurité du 22 février 2016. Alors, l'absence de M. Foucault, c'est moi qui prends le point. Donc, il est proposé de modifier deux articles. L'article 2.3 qui concerne l'équipement de protection individuelle, qui dit que tout agent intervenant sur la voie publique ou sur un chantier doit porter des vêtements de haute visibilité ou d'équipement de protection individuelle garantissant un minimum de protection visuelle de classe 2. Cette protection est obtenue obligatoirement en sortant un pantalon haute visibilité de classe 1. Chasuble, parka, les vestes et t-shirts haute visibilité. Bon, en effet, dans le marché à bon de commande pour les vêtements, on a tenu à ce que les collaborateurs qui travaillent à l'extérieur soient clairement identifiés pour des questions de sécurité. Et ensuite, une autre disposition relative à l'utilisation du téléphone portable qui ne doit pas être utilisé dans l'exercice de leurs fonctions. L'article L412-6 stipule l'usage du téléphone de tout bien même par le conducteur de véhicules en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité pour les agents non véhiculés intervenant sur la voie publique. En effet, on a vu parfois des collaborateurs qui étaient complètement coupés du monde extérieur, avec des écouteurs qui écoutaient la musique toute la journée. C'est interdit dorénavant. Et ça l'était avant, mais on le réaffirme pour qu'on le fasse respecter. Éventuellement, si ce n'est pas le cas, eh bien, on prendra les dispositions qui conviennent. Les contrevenants assurent les conséquences en cas de manquement. C'est surtout le principe de la mise en sécurité de leur personne et de celle de leurs collègues de travail. Quand on n'entend pas ce qui se passe, on n'est pas prévenant comme on l'est. Voilà. Donc je vous demande d'adopter les modifications que je viens d'évoquer. Vous avez
peut-être
évoqué
à l'unanimité.
Ancien CTV, oui. Le dialogue est très constructif. Personne n'essaie de convaincre personne, mais tout le monde ne reconnaît que. Nous essayons de mettre en musique, si je puis dire, les meilleures conditions de travail. Il convient de le faire pour une municipalité qui se respecte. Et je vous demande d'approuver ce point pour, contre, abstention, il n'y en a pas. Écoutez, je vous remercie pour votre participation, mesdames et messieurs. Et je vous dis, rendez-vous le 27 juin.